Vous écoutez
RMC. RMC Intégral Sport.
Christophe Cessieux.
Bonjour à tous, et oui, c'est le début de l'Intégral Sport, vous l'avez entendu, demain à cette heure-là, nous serons au Stade de France, à quelques heures du coup d'envoi du match entre la France et l'Écosse, troisième match de ce tournoi pour l'équipe de France, qui après s'être imposée en Italie, a connu la défaite il y a quelques jours face à l'Irlande. C'est donc un match, le match du rachat face à l'Écosse, demain à partir de 16h, nous serons en direct du Stade de France avec toute l'équipe, évidemment Denis Charvet, Wilfried Templier, Richard Pouljones et de nombreux invités. De rugby, il en sera question tout à l'heure, parce que le tournoi et cette troisième journée débute tout à l'heure à partir de 15h15 avec notamment le match entre l'Italie et l'Irlande. On en parlera avec Pierre Amiche. On s'intéressera également au deuxième match de l'après-midi entre l'Angleterre et le Pays de Galles. Les Gallois qui, vous le savez, sont dans une situation très compliquée, situation financière notamment. Il sera également question de rugby avec le top 14. C'est un week-end de doublons avec la 19e journée du championnat et ce match qui opposera à partir de 15h le Stade français à Montpellier. On parlera également de foot dans un instant. Nous serons en direct de Marseille avec notre ami Florent Germain. Vous le savez, demain c'est jour de classique Marseille-Paris-Saint-Germain. Toute la Canebière, tout le Vieux-Port, toute la cité phocéenne y croit après avoir déjà battu le PSG en Coupe de France il y a de cela quelques jours. Florent va nous dire un peu l'engouement qu'il règne en ce moment à Marseille. On vous donnera également des nouvelles du Paris Saint-Germain qui s'est entraîné hier en public. On serait vraiment cru dans un match. Et puis également au programme donc de la Ligue 2, tout à l'heure je vous le disais, avec ce match entre Grenoble et Le Havre. On essaiera également de joindre Perrine Laffont qui vient de décrocher un quatrième titre de championne du monde de ski de boss. Ça se passe en Géorgie, on essaie de la joindre pour vous la mettre au téléphone dans quelques minutes. 14h07, c'est parti pour l'Intégral Sport. C'est donc dans un peu plus de 24 heures maintenant qu'aura lieu ce fameux classique entre Marseille et le Paris Saint-Germain. Un match qui suscite évidemment l'attention et l'intérêt des fans des deux équipes, et pas seulement des fans des deux équipes. C'est un match référence dans notre championnat de France. Match référence d'autant que Marseille, eh bien, a réussi enfin à battre le Paris Saint-Germain à domicile. C'était il y a quelques jours en Coupe de France. Et les Marseillais aimeraient bien reproduire la même chose demain en championnat. Florent Germain est avec nous en direct de Marseille. Oh, le week-end de classique, surtout un comme ça, où il y a des petits frissons dans le dos. Ça va, Flo ?
Pas. Salut Christophe, salut à tous. Ah oui, ça va être chaud.
Comment est l'ambiance à Marseille ? J'imagine que déjà qu'on parle de l'OM tout le temps, mais là, à la veille d'un match face au PSG, avec en plus la possibilité vraiment de les battre, ça suscite beaucoup d'engouement, non ?
Bah écoute, en plus c'est les vacances dans certaines zones, donc c'est vrai qu'à la Commanderie cette semaine, j'y suis allé 2-3 fois tout au long de la semaine, et il y avait 150-200 personnes devant les grilles de la Commanderie, donc on sent un petit engouement. Les joueurs, enfin il y en a beaucoup qui sont sortis signer les petits autographes, faire les petites photos. Aujourd'hui, il se murmure qu'il y aura un rassemblement sur les coups de 17h devant la Commanderie, à peu près au moment de l'entraînement, donc peut-être de manière encore plus organisée, avec sûrement des groupes de supporters qui feraient les déplacements, les scènes assez traditionnelles qu'on voit de fumigènes qui s'allument la veille d'un gros match. Et d'ailleurs, ça avait été le cas il y a un peu plus de 15 jours, sauf que pour le coup, les associations avaient été invitées même à entrer, assister à un entraînement de veille de match, ce qui est très rare. Donc ça avait été court mais intense. Il y avait eu des petits mots d'encouragement, évidemment, des leaders des groupes de supporters aux joueurs qui étaient sur la pelouse. Donc voilà, c'est une semaine spéciale, d'autant plus qu'il y aura une affluence record, historique. On va se rapprocher des 66 000 supporters.
Comment on arrive encore à battre des records d'affluence dans ces stades, Flo ?
Alors, il y a deux raisons. Déjà, la première, on peut la regretter, c'est que quand les supporters adverses ne peuvent pas faire le déplacement, tu peux recommercialiser les places qui étaient dédiées à cette zone visiteur. Et puis après, moi, je vais pas te le cacher, on me le confirme pas au club, mais je pense que c'est aussi un petit jeu de laisser petit à petit, non mais de laisser un petit quota supplémentaire pour se laisser une marge et de créer un événement. Je reste persuadé que sur des OM Nice, OM Lyon, OM Nice qui a été chaud récemment, OM Lyon, si tu poussais jusqu'au bout et si tu ouvrais la billetterie jusqu'au dernier moment, tu pourrais tout le temps être au maximum de la capacité. Ouais. Sauf que finalement, à 100, 200 sièges près, je pense que l'OM peut se permettre la marge de créer l'événement en battant un record d'affluence qui se joue joue à 100 places près. Hein,
et j'imagine que le Vélodrome pourrait avoir une double capacité qui serait pas, qui serait remplie évidemment.
Bah, on disait pour ce match, non ? Ouais, on disait que sur un match comme ça, tu peux remplir un stade de 90 000 personnes, 100 000 sans problème. Ouais. D'ailleurs, tiens, écoutez les supporters marseillais parce que je les ai vus cette semaine pour évoquer justement cette affluence record. Tous ont des frissons. On les écoute. Ils ont hâte d'être à dimanche 20h45 parce que ce sera bouillant.
C'est juste merveilleux d'être à l'intérieur du volcan qu'est le Vélodrome en ébullition quand il est à guichet fermé. Et en plus, là, contre le PSG, maintenant qu'on les a battus en Coupe de France, je pense qu'on risque d'avoir dimanche soir une ambiance stratosphérique.
Comme ils annoncent, 66 000 là-bas. C'est merveilleux. Et 66 000 supporters à l'unisson au niveau de l'ambiance et tout, ça va être mémorable.
Nous, on est bien, eux, ils ne sont pas bien. Donc, c'est le moment ou jamais. Être à deux points et pouvoir espérer un faux pas de leur part par la suite. C'est des guerriers sur le terrain. Ils ne sont pas prenables. Personne ne peut les prendre en ce moment.
Ben il voilà. Parle des Marseillais, hein.
Ah oui, j'imagine. Ouais. Les Parisiens, ils sont un peu plus prenables. Ouais. Donc on y croit vraiment. On y croit vraiment à Marseille. C'est vrai que habituellement, les années précédentes, on disait ouais, est-ce qu'on peut vraiment y croire ? Et tu sentais dans les réponses des supporters qu'il y avait pas trop d'espoir. Là, il y a un véritable espoir cette fois-ci.
Bah, écoute, c'est vrai que cette victoire en coupe a peut-être décomplexé un petit peu les Marseillais ou fait dire aux supporters que voilà, ils peuvent regarder le PSG au moins cette saison dans les yeux. Alors après, c'est une question qui est beaucoup revenue c'est depuis la victoire en Coupe de France. Je pense que ce que souhaitent beaucoup de supporters marseillais, c'est de rivaliser sur la durée avec le PSG et pas uniquement de se dire bon, cette année on peut les battre, on peut créer l'exploit. Il y a malgré tout ce sentiment que il faudra au bout d'un moment rattraper aussi cette différence qu'il y a parce que l'OM veut retrouver l'Europe, veut être compétitif en Ligue des Champions. Mais là, si tu parles du championnat, effectivement, le rapport de force c'est quand même équilibré. Il y a une réalité au classement, c'est que l'OM peut revenir à deux points et là véritablement, comme on dit, comme le veut l'expression, ne pourra plus trop se cacher. Hein, Marseille, si jamais ils reviennent à deux points, là pour le coup, on parlera un petit peu de titre. Mais malgré tout, Igor Tudor, il a été questionné là-dessus hier en conférence de presse. Et lui, je pense qu'il est sincère quand il en parle. On va l'écouter. Il veut pas forcément assumer un rôle de favori ou en tout cas reconnaître que le rapport de force justement est différent et plus équilibré. Écoutez, il met plutôt la balle et la pression dans le camp du PSG.
Honnêtement, avec Messi, Neymar, Ramos, Marquinhos, Ruiz, Hakimi et j'en passe, il n'y a qu'eux qui peuvent être favoris, donc la pression est dans leur camp. Avec l'équipe qu'ils ont, ils devraient gagner tous les week-ends. Bien sûr que chez nous, on est plus confiants et qu'on veut faire les choses bien. On y croit, on va lutter avec tous nos moyens, il faudra être bien dans le match dès le départ, mais chaque match est différent. Cela dépend aussi de l'adversaire. Donc on verra.
Oui, vediamo cosa succede anche d'altra parte.
Le petit jeu habituel, non, c'est pas nous les favoris, c'est les autres. J'imagine qu'à Paris, on doit dire la même chose. On va.
Il a été questionné là-dessus, Christophe Galtier. Ouais, Fabrice Hawkins en parlera, mais c'est vrai que il a pas osé dire quand même que Marseille était favori.
Oui, Christophe Galtier. Ça, ce serait faire preuve d'un peu de suffisance, effectivement.
Quand tu regardes les effectifs, etc. Ouais. Après, il y a une dynamique, je te le cache pas. Et puis, il y a aussi un style Igor Tudor. Je pense, Christophe, faut insister là-dessus, c'est que Igor Tudor, il demande quoi qu'il arrive la même intensité. L'OM a quand même un peu marché sur le PSG en Coupe de France, hein, toute proportion gardée. Enfin, je veux dire, c'était pas violent, mais ils ont quand même été étouffés, les Parisiens, il y a 15 jours. Et ça, c'est le style demandé par Igor Tudor. C'était différent avec Sampaoli qui demandait de la possession. Villas-Boas ou Rudy Garcia avaient joué le PSG très prudemment ces dernières saisons. Lui, Igor Tudor, il faudra une méfiance et une vigilance particulière, surtout par rapport à Mbappé, parce qu'il n'était pas là. C'est quand même le facteur X. Là, il n'était pas là il y a 15 jours. Et d'ailleurs, les deux dernières victoires de l'OM contre Paris, Mbappé n'était pas là, hein, parce qu'en 2020, avec le but de Thauvin, il était absent aussi. Il y va pour faire le match et il n'y aura pas une volonté. Enfin, il ne faut pas croire que Marseille va respecter le PSG. Ça, c'est peut-être ce qui a vraiment changé.
Eh bien, très bien. Nous allons voir si du côté parisien. Merci, Flo. Tiens, on écoutera une autre interview des supporters marseillais à propos de l'entraînement payant du Paris Saint-Germain. Il y a quelques petits morceaux sympas. On va écouter ça dans un instant. Merci, Flo, en tout cas.
Ciao, les amis.
Et à demain pour ce match. Fabrice Hawkins nous a rejoint. Salut, Fabrice.
Salut, Christophe.
La version parisienne, évidemment, de ce classique avec toi. On a entendu que Igor Tudor mettait donc la pression sur le Paris Saint-Germain. C'est eux les favoris. Avec un tel effectif, comment voulez-vous qu'on rivalise? Est-ce qu'à Paris, on fait le même genre de choses? On dit, oh là là, mais là, on va jouer contre une équipe qui nous a battus, qui est dans une dynamique incroyable. C'est le petit jeu de c'est pas moi le favori, c'est l'autre, non?
Oui, c'est un petit peu ça. Alors, effectivement, avec ce groupe qu'a à disposition Christophe Galtier, avec tous ses joueurs, et Igor Tudor les a cités, Christophe Galtier peut pas arriver en conférence de presse en disant que c'est Marseille qui est favori. En revanche, la dynamique actuelle du Paris Saint-Germain n'est pas bonne. 3 défaites sur les 4 derniers matchs. Donc forcément, Christophe Galtier, il est obligé de le prendre en considération. On lui a posé d'ailleurs la question hier en conférence de presse, savoir si Paris était favori sur ce classique. Écoutez sa réponse.
C'est un match important. C'est des équipes qui sont très proches au niveau du championnat, avec très peu de points d'écart, et que automatiquement, en plus de l'affiche, en plus de notre défaite, notre élimination en Coupe de France et le match que nous avons fait là-bas, évidemment que c'est un match important. Est-ce que se jouera le titre sur ce match-là? Je ne le crois pas. Il y aura à la fois beaucoup de classe et beaucoup de malice. Pour pouvoir être favori, il aurait fallu être dans une dynamique sûrement différente. Mais il n'en reste pas moins que suite à notre élimination là-bas et aussi la fin de match, à la fois la fin de match contre le Bayern, mais aussi la fin de match face à Lille, nous donne beaucoup d'espoir sur ce que nous pouvons faire, mais sur la durée du match et non pas sur 20 minutes, un quart d'heure en début de match ou un quart d'heure en fin de match. Il faudra avoir un niveau de jeu très, très, très élevé et défier ces Marseillais qui sont évidemment à domicile portés par leur public, qui sont aussi sur une grosse dynamique.
Voilà, grosse dynamique, public énorme, et donc l'obligation effectivement de faire 90 minutes de match et pas seulement un quart d'heure comme ça a été le cas dernièrement lors des derniers matchs du Paris Saint-Germain. La différence avec le match de Coupe de France, c'est le facteur K.
Eh oui,
le facteur Kylian Mbappé qui cette fois-ci sera là et a priori désormais remis complètement de ses petits pépins musculaires.
Hein. Oui, il sera là, Kylian Mbappé. Il s'est remis de son petit pépin à la cuisse et surtout il est en forme. On l'a vu déjà dimanche dernier contre Lille, dans la course, dans les intentions aussi. On l'a vu hier lors de l'entraînement ouvert au public, en train d'haranguer un petit peu tout le monde. D'ailleurs, il y avait un petit message passé par la tribune Auteuil, le collectif Ultra Paris à l'égard de Kylian Mbappé, qui a déployé une banderole. Kylian, aucun état d'âme, ici c'est Paname, comme pour lui dire, bah, il faut y aller. De toute façon, ils le savent qu'ils peuvent compter sur lui. Il est très performant souvent lors des classiques. Et c'est vrai qu'il sera énormément attendu, Kylian Mbappé. Il fait son retour, il est en forme, il s'est entraîné normalement ces derniers jours. L'interrogation peut-être, elle porte plus sur les pistons, parce que ça va être vraiment ça qu'on va regarder du côté de Christophe Galtier. On devrait retrouver une défense à 5. Et donc, on se demande un petit peu qui est-ce qui va jouer de part et d'autre. On sait que ces pistons-là sont importants dans le système, qui sont performants aussi, à l'image d'Achraf Hakimi et de Nuno Mendes. Est-ce que ces deux hommes-là vont commencer? C'est pas encore totalement sûr. Ils ont rejoint les vestiaires un petit peu plus tôt. Hier, Achraf Hakimi et Nuno Mendes, ils étaient un petit peu en délicatesse. Même chose pour Nordi Mukiele. Donc ça va vraiment être intéressant. Et du côté tactique, en tout cas, c'est ce qu'on va regarder en premier. On sait que Neymar n'est pas là devant et donc ce sera Kylian Mbappé et Messi. Renato Sanchez aussi ne sera pas là. Pour le reste, il n'y aura pas de surprise. Mais ça risque beaucoup de se jouer là, parce que c'est aussi sur ces secteurs-là que Paris s'est fait piéger le 8 février dernier en Coupe de France.
Ok, tu parlais de cet entraînement donc hier ouvert au public. C'était pas arrivé depuis des années. Oui. Il y a une ambiance de folie hier au Parc des Princes. On serait cru pendant un match. Hein.
Oui, tu le disais, ça n'était pas arrivé depuis 11 ans. Et franchement, il y avait une ambiance assez exceptionnelle. Plus de 33 000 supporters. Ils étaient 33 000 environ. D'ailleurs, grosse ambiance avec des fumigènes, avec un public aussi beaucoup plus jeune, des enfants, un public familial. Ils ont vraiment mis l'ambiance. C'était quand même assez exceptionnel, assez beau à voir. Surtout, ils avaient besoin de ça. Ils avaient besoin aussi peut-être qu'on leur rappelle que c'est très très important. On sait que certains sont attachés, très attachés même au maillot. On grandit avec le Paris Saint-Germain. C'est le cas de Presnel Kimpembe. Kylian Mbappé, j'en parlais. Il est performant à chaque classique. Il y a un petit message qui a été passé là encore avec une banderole. Une fois, pas deux, soyez sans pitié avec eux, comme pour leur rappeler qu'il fallait absolument s'imposer, pas refaire le coup de la Coupe de France.
Ah, ça fait mal, hein, tous les supporters parisiens de se faire taper par l'OM. Ça, y a rien de pire, hein. Tu peux abandonner la Ligue des Champions, mais se faire taper par l'OM, ça, c'est pas possible. Alors justement, tiens, les supporters marseillais, qu'ont-ils pensé de cet entraînement ouvert au public et payant pour certains, pas pour tout le monde, les abonnés, oui, par exemple, ne payaient pas, mais enfin, pour les autres, c'était entre 5 et 15 euros.
Entre 5 et 15 euros. Les abonnés ne payaient pas, ils pouvaient venir avec un accompagnant. Il y avait les enfants de la fondation également, qui pouvaient venir avec un accompagnant. Même chose pour les salariés du club. Il n'y a pas énormément de monde qui ont payé finalement, mais il y avait quand même, un certain nombre de personnes qui ont payé entre 5 et 15 euros, et ça a fait grincer des dents pas mal de supporters. C'est vrai qu'ils n'étaient pas forcément très contents de devoir payer pour assister à cet entraînement, même si, on le rappelle, ce n'était pas la majorité.
Ok, bon, ben on n'a plus le son des supporters, ils ont disparu dans la machine, donc c'est dommage de ne pas écouter les supporters marseillais, qui étaient assez remontés et qui étaient plutôt pas mal. Merci en tous les cas Fabrice, rendez-vous donc demain pour ce classique entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain, 14h21 sur RMC. Voilà pour le foot, on retrouvera tout à l'heure Edouard G pour évoquer un autre match de Ligue 2 cette fois-ci, qui va opposer Grenoble au Havre et qui débutera tout à l'heure à 15h. À tout de suite sur RMC.
RMC
Intégral Sport. RMC Intégral Sport.
Christophe Cessieux.
14h24 sur RMC, il est l'heure de parler de rugby. Ben oui, c'est un week-end énorme qui nous attend, troisième week-end du tournoi des Six Nations qui débute cet après-midi par deux matchs. Le premier, ce sera tout à l'heure à 15h15 entre l'Italie et l'Irlande, et le deuxième un peu plus tard entre le Pays de Galles et l'Angleterre. Pierre Rabadan m'a rejoint, salut Pierrot. Voilà, on va lui remettre une message. Non, mais il y a plus de lumière, il y a plus rien. Non, tout va bien.
Dans le noir.
Ça va, Pierre?
Ouais, impeccable.
Bon, match du tournoi. Deux matchs cet après-midi, mais évidemment, celui que tout le monde attend, c'est demain, entre la France et l'Écosse.
Ouais, il est un peu plus attendu, évidemment, mais enfin, il y avait quand même quelques enseignements à tirer, là, du pays de Galles, Angleterre et de l'Italie, Irlande, pour que la France puisse, évidemment, toujours concourir à gagner le tournoi à destination. Donc, on serait pas contre, petite défaite des Irlandais en Italie.
Tu y crois franchement, défaite des Irlandais en Italie.
La particularité de notre riche et beau sport et qui est le top 14 joue aussi en même temps, donc on va aussi suivre les matchs cet après-midi.
Exactement, avec le Stade français qui reçoit Montpellier, ce sera tout à l'heure à partir de 15h. Wilfried Templier est avec nous, normalement, il est là. Oui, il est là.
Bonjour Pierre, bonjour Christophe.
Bonjour Wilfried, comment ça va?
Salut Wilfried.
Oh bonjour. Tu es au Stade de France?
Ça va, ouais, je suis à 10 mètres de la pelouse là. Je suis en bas des escaliers.
Captain Run
dans quelques instants. On attend les Français. Un beau soleil sur le Stade de France. Un petit vent qui vient du nord. Alors, on va jouer la Evelyne Delia aussi. Attention demain, messieurs, dames. 50 km/h de vent annoncé du nord sur le Stade de France. Beau temps, mais ressenti de 1 ou 2 degrés, hein, peux conseiller les gens. En plus, en même temps, un petit bonnet, une petite écharpe, ce sera pas de trop, je pense.
Très bien, moi je serai à l'intérieur des salons, je risque pas d'attraper froid, oui, ne t'inquiète pas.
Avec les VIP, évidemment, Christophe.
Ah ben oui, évidemment, avec du champagne, avec des petits
fours.
Bien
sûr.
Attendez, qu'est-ce que tu crois? Pierre Amiche nous a rejoint également.
Bonjour Pierre, bonjour Wilfried, bonjour Christophe, bonjour à tous.
Bonjour Pierre.
Qui va nous commenter les deux matchs du jour.
Et oui, les deux chocs, Italie-Irlande et Pays de Galles-Angleterre. Et
bon, je vais Cardiff.
Ouais, c'est ça. En termes d'empreinte carbone, je suis pas au top, mais on risque de voir de beaux matchs en tout cas.
Très bien. On va commencer par l'équipe de France, Wilfried. Une équipe de France dont on a déjà parlé ce matin. Pas de changement par rapport à l'équipe battue en Irlande, mis à part Antonio.
Un seul.
Suspendu, qui a été remplacé par Mohamed Awas. Sinon, on garde les mêmes et on espère faire mieux que la dernière fois. Hein.
Oui, on espère faire mieux, on espère surtout rebondir après cette défaite. Les Français n'étaient plus habitués, 14 victoires de suite, une défaite en Irlande. Alors, c'est dans le mandat de Fabien Galthié, c'est arrivé une seule fois qu'il y ait deux défaites de suite, une seule fois. C'était en 2021 et justement, c'était France-Écosse, c'était le dernier match du tournoi 2021 et ensuite, c'était un peu plus loin, le mois de juillet, le premier match de la tournée en Australie. Sinon, les Français n'ont jamais perdu deux fois de suite voilà dans ce mandat, c'est la seule fois, donc on espère que ça continuera pas demain, qu'ils retrouvent le chemin de la victoire face à l'Écosse. Ça s'annonce pas facile parce qu'on parle beaucoup de l'Irlande dans ce tournoi, mais il faut savoir qu'en tête de ce classement, l'Écosse est à égalité avec l'Irlande, avec deux victoires en Angleterre et face au Pays de Galles, avec une équipe assez décomplexée, une équipe pas facile à manœuvrer, avec des joueurs d'expérience, des Finn Russell, des Stuart Hogg, des Gray devant, des Gilchrist, Hamish Watson qui fait son retour en troisième ligne. Et c'est vrai que voilà, les semaines précédentes, on n'a pas beaucoup parlé de l'Écosse, mais les Français savent à quoi ils s'attaquent demain au Stade de France. Et Fabien Galthié a bien voulu évoquer cet adversaire avec des faits, tout simplement. Il est très méfiant.
L'équipe d'Écosse, elle a commencé par une victoire avec bonus offensif à Londres, à Twickenham. Elle a enchaîné ensuite par une victoire avec bonus offensif face au Pays de Galles. Quand on regarde la composition d'équipe, on se rend compte qu'aujourd'hui, les Écossais nous proposent leur meilleure équipe. Voilà, par le jeu des blessures, par le jeu des retours de blessures, par le jeu des joueurs en forme, les 23 Écossais qui vont rentrer au Stade de France, c'est leur meilleure équipe d'Écosse qu'on ait joué depuis maintenant, puisqu'on les a joués deux fois chez eux, une fois chez nous, trois fois. C'est leur meilleure équipe. Aujourd'hui, ils sont premiers ex aequo avec l'équipe d'Irlande et ils sont en capacité de gagner le tournoi.
Alors il a ajouté aussi, comme nous et comme l'Angleterre, on est aussi en capacité, vous en parliez juste avant, de gagner le tournoi. C'est vrai qu'il peut se passer des choses, il y a un Irlande-Angleterre la dernière journée, la France peut encore espérer, les joueurs, les répètent, ils sont en train d'arriver sur la pelouse actuellement au moment où je vous parle, les joueurs espèrent toujours gagner ce tournoi, mais c'est vrai que c'est un adversaire qui nous a battu dans le tournoi deux fois en trois matchs. On a fait une démonstration, 36 points marqués à Murrayfield l'année dernière, mais on a perdu deux fois contre les Écossais. Rappelez-vous le carton rouge de Mohamed Awas en 2020 et après trois victoires de suite, la grosse déception là-bas, et puis leur victoire avec le doublé de Van der Merwe, dont l'essai à la dernière minute il y a deux ans. Donc c'est pas forcément une équipe qui nous réussit beaucoup, seulement 7 défaites, hein, 25 victoires, 7 défaites pour Fabien Galthié, 2 contre l'Angleterre, 2 contre l'Écosse, 2 oui. contre l'Australie, 1 contre l'Irlande. Donc c'est une équipe qu'on voilà, on a du mal face à eux, et Pierre va peut-être nous le dire, Christophe, mais il y a beaucoup d'arguments côté écossais.
Et oui, forcément. Et l'argument numéro un s'appelle Finn Russell. Enfin, il y en a peut-être un bis avec un Van der Merwe aussi qui est quand même pas mal. C'est vrai qu'il y a de sacrés joueurs et c'est une magnifique équipe. On adore voir jouer l'Écosse. Hein. Et une équipe qui nous ressemble plus finalement que les autres nations du tournoi.
Alors, je sais pas si elle nous ressemble plus. Elle me semble quand même. En termes de niveau un peu en dessous de ce qu'est capable de produire l'équipe de France quand elle est dans
ses grands jours,
quand elle est dans un bon jour, voilà. Mais en termes de talent, effectivement, ils ont des joueurs de classe mondiale. Hein. Tu parlais évidemment de Finn Russell. On sait aussi qu'il est capable de passer à côté de ses matchs. Hein. C'est toute la complexité du coup.
C'est l'ancien joueur du Stade Français qui parle.
Non, parce qu'il a énormément de talent, mais il y a des jours où comme il prend beaucoup de risques. Ben, tu vois, si c'est lui-même qui le disait dans plusieurs déclarations que j'ai lues, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui attache assez peu d'importance à l'erreur. Voilà, donc
il vient très près de la défense, fait. Pierre. Hein.
Voilà, mais par contre, quand ça fonctionne, ben, il fait basculer les matchs, il est décisif, que ce soit pour le Racing ou l'équipe d'Écosse. Donc après, c'est vrai que Van der Merwe est un super atout pour cette équipe écossaise. Je trouve qu'elle a vraiment progressé, notamment devant. Elle avait un peu de difficulté à être constante sur les phases de conquête, notamment où il souffrait beaucoup. Je les trouve plus solides, un peu plus tacticiens que par le passé. Et puis, par contre, c'est une équipe offensive qui sait très bien jouer au ballon. Donc attention, c'est une équipe dangereuse. Mais pour connaître un peu Fabien Galthié et aussi l'ADN qu'il essaye de mettre en place avec l'équipe de France après la déconvenue irlandaise, je pense que voilà. On a resserré un peu les boulons et qu'on a la capacité largement de battre cette équipe d'Écosse qui est impressionnante malgré tout depuis le début du tournoi.
Sachez messieurs que l'Écosse est l'équipe qui tape le plus dans ce tournoi, hein, qui tape le plus dans le ballon et qui fait le moins de passes. J'étais très surpris par cette stat. Mais dans l'histoire de la dépossession, repossession, ce qui marche, voilà, se nourrit beaucoup de ballons de récup, choses comme ça, et très clinique dans les 22 mètres, très efficace dans les 22 mètres adverses.
Je le disais un petit peu, Wilfried, elle est un peu plus tactique qu'à une époque.
Ouais.
C'est-à-dire qu'elle a toujours eu cette volonté de jouer, alors avec des joueurs plus ou moins talentueux selon les générations, mais là elle est un peu plus tactique, elle a un paquet d'avant un peu plus dominateur que par le passé, du coup ça la rend plus dangereuse. Mais beaucoup d'équipes, si on parle du Stade Toulousain, si on parle des All Blacks, voilà, des équipes qui ont beaucoup dominé, elles s'appuient sur des coups d'éclat, mais souvent sur peu de jeu dans leur propre terrain.
Pas de risque.
Assez peu de risque, en tout cas un risque contrôlé. Et puis, par contre, dès qu'on met la marche avant, ça va vite et c'est efficace.
Alors, on a beaucoup parlé de l'état physique des joueurs du 15 de France, notamment pour expliquer la défaite face à l'Irlande. Or, on a renouvelé la même équipe. Est-ce que tu penses que là, ces quelques jours ont permis de faire du jus, ou alors il aurait peut-être fallu procéder à quelques changements histoire de faire souffler les joueurs? Qu'est-ce que tu en penses? Quelle est ta théorie là-dessus?
Ouais, là, on est un peu dans une configuration un peu particulière, hein, parce que les joueurs, ils ont eu presque une semaine de repos, enfin un petit peu moins, pour refaire du jus justement après les, je crois que c'est 46 minutes de temps de jeu effectif, hein, en Irlande. Ouais. Donc pour avoir écouté chacun des joueurs, ils étaient tous rincés, hein. C'était vraiment un match de très haut niveau, donc je pense que la semaine a été bonne, et puis c'est aussi un signal qu'envoie le staff. Je crois que maintenant on se rapproche de la Coupe du Monde, ils veulent s'appuyer sur une équipe et une ossature la plus identique possible, qu'elle soit extrêmement performante comme elle l'a été pendant 14 matchs, ou parfois un peu moins, contre la meilleure nation du monde aussi, il faut le dire, l'Irlande. Donc on cherche la continuité, et je pense qu'ils ont eu 15 jours pour se retaper.
On en parlera tout à l'heure avec Pierre, il peut nous en parler déjà. Pierre, l'équipe d'Irlande qui va affronter l'Italie cet après-midi n'est pas du tout la même que celle qui nous a battus. Il y a eu pas mal de changements. Pourtant, ils sont en lice pour aller chercher le grand chelem. Bon, on me dira, oui, c'est l'équipe d'Italie, c'est des tocards, c'est ce que les gens laissent entendre. Ce matin... je suis désolé, Wilfried. Ce matin, dans le débat dans les grandes gueules du sport, on disait oui, mais c'est l'Italie que l'Irlande
a. Personne n'a dit
je suis désolé, l'Italie a bien failli nous taper la dernière fois, quoi. Non, mais c'était sous-jacent, quoi.
Non, mais ils ont confiance en leur groupe.
Vous l'avez pensé très fort, je l'ai senti dans
le. Non, mais enfin, vous, tu peux dire eux, moi, j'ai pas de temps.
Toi aussi, oui,
je t'ai rien dit.
Oui, on t'a bien vu. Oui, pour répondre à ta question, Christophe, oui, il change quasiment toute la colonne vertébrale, puisque c'est 6 changements avec notamment le 2, le 8, le 9, le 10, le 12, le 13, ça fait beaucoup de changements. On va retrouver notamment Jack Conan, le numéro 8 extrêmement talentueux, qui va pousser Callahan Doris, qui est l'un des meilleurs troisièmes lignes aujourd'hui, à l'aile de cette troisième ligne irlandaise. Ronan Keller fait son retour au poste de talonneur, et puis c'est une première, puisqu'il n'y aura ni Murray ni Sexton sur la pelouse au coup d'envoi, puisque c'est Craig Cazet et Ross Byrne qui vont être alignés à la charnière. C'est une première, c'est la première fois que ce duo est aligné sur le Six Nations. Et puis il y a eu des choix, comme celui de Bundiaki, le premier centre très puissant, qui est capable de jouer en troisième ligne, qui est aligné au poste de 12. Et il y a parfois aussi des conséquences, des suites du match face à l'équipe de France, puisqu'il y a des blessés. C'est le cas de Gary Ringrose, qui est touché et qui a dû laisser sa place au dernier moment à Stuart McCloskey, qui est lui aussi un percheron. On va avoir un milieu de terrain très dense côté irlandais. Après, oui, il y a des changements qui sont aussi des choix. C'est le cas, par exemple, pour Jack Conan, j'en ai parlé, pour Bundiaki, pour Craig Cazet. Mais ils ont aussi beaucoup de blessés. Jonathan Sexton est touché. Leur talonneur, Sheehan, qui est sur le banc, lui était légèrement diminué et il a dû voir Keller lui repasser devant. L'Irlande a fait le pari de faire un petit peu tourner, et peut-être qu'aussi ils n'avaient pas le choix à tous les postes.
Ouais.
Non, mais Christophe, en plus, Christophe, Pierre, ils sont dans une autre dynamique, les Irlandais. Ils ont gagné leurs deux matchs, ils arrivent en Irlande, ils ont une dynamique de groupe, une émulation que tu voudrais pour l'équipe de France, qu'ils font à 6 mois de la Coupe du Monde. Mais nous, on a perdu en Irlande, faut resserrer les rangs, et il y a peut-être, je sais pas ce que vous en pensez, Christophe, Pierre, c'est pas le même contexte, peut-être, entre les Français et les Irlandais, pour ces changements.
Mais nous, on change jamais l'équipe. Qu'elle perde ou qu'elle gagne, on garde les mêmes.
Bah, alors, elle a pas beaucoup perdu, quand même, ces derniers temps. Il faut aussi,
Mais elle est quand même passée pas très loin de la défaite.
Oui, mais bon,
à plusieurs reprises.
Là, t'as perdu en Irlande chez la première nation mondiale qui marche un peu sur l'eau. Voilà, et là, qui a fait le pari en Italie. Donc, l'Italie qui a progressé, mais elle a fait le pari de tourner, faire tourner. Donc, peut-être de refaire du jeu, comme tu le disais tout à l'heure. Et peut-être de donner du temps de jeu à certains joueurs aussi pour préparer sa Coupe du Monde.
Mais c'est ce que je vous souhaite pour l'équipe de France. C'est pas de sanctionner les joueurs qui ont perdu.
Mais t'es pas dans la dynamique là. Rejoins Wilfried et Pierre là-dessus. T'es pas dans la dynamique après ta première défaite, après 14 matchs, pour faire une rotation.
Ouais.
Parce que du coup.
Tu peux la faire si tu perds face à l'Écosse demain, c'est ça?
Christophe, il veut mettre le feu à l'équipe de France. À 6 mois de la Coupe du Monde, ils ont tout brûlé.
La question aurait été, est-ce que tu aurais pu attaquer le tournoi en mettant certains cadres au repos? Mais il y a eu des rotations circonstancielles parfois. quand les certains titulaires n'étaient pas là. Bon, je pense que les enseignements, ils les ont tirés. Et peut-être, tu sais, aussi, on a appris de certaines erreurs qu'on a fait dans les préparations de précédentes Coupes du Monde. Et que maintenant, on veut s'appuyer finalement sur un groupe. Peut-être que Fabien Galthié et son staff, ils connaissent très bien leur groupe, très bien leurs joueurs. Ils savent, et ils leur ont peut-être dit déjà quel était le plan de charge. Voilà, donc moi... Enfin, je n'aurais pas compris honnêtement qu'ils changent radicalement. Ils font pas un mauvais match en Irlande. Or, on perd contre la première nation mondiale avec un match où les critères du haut niveau sont parfois dépassés, même atteints. Bon, c'est un petit coup d'arrêt, c'est sûr, dans les 14 victoires d'affilée. Mais bon, voilà, il y a encore beaucoup à apprendre aujourd'hui.
Très bien, Wilfried, on te laisse assister au Captain Run, dernier entraînement de l'équipe de France.
Ils sont là sous les ordres de Thibaut Giroud, là, ça voilà, fait un peu d'exercice physique et ça va se mettre en place pour faire des touches juste devant nous. Là.
Très bien, eh ben, essaie, tu peux essayer de te mêler au truc là pour lancer le ballon.
Ouais, me mettre en touche avec eux.
C'est ça, ouais. En opposition. Tu vas pas toucher grand chose. Merci.
Allez,
Wilfried,
vas-y.
Bon entraînement et à demain, 15h, en direct du Stade de France, la coup d'envoi à 16h. Il est 14h38, on s'interrompt quelques instants, on sera en ligne dans quelques instants avec Perrine Laffont, notre championne olympique et championne du monde de ski de boss, qui vient de décrocher un nouveau titre mondial il y a de cela quelques minutes. A tout de suite.
RMC Intégral Sport. RMC Intégral Sport.
Christophe Cessieux.
14h41 sur RMC, l'Intégral Sport. On parle rugby. On sera dans quelques minutes en ligne avec Perrine Laffont. On essaie de la joindre. Elle qui a donc réussi à décrocher une quatrième couronne mondiale. C'était il y a quelques minutes à Bakuriani, au fin fond de la Géorgie, dans l'épreuve de ski de boss en simple. Notre ancienne championne olympique, toujours championne olympique, parce que ça, tu le restes à vie, qui viendra nous en parler dans quelques instants. On est toujours avec Pierre Rabadan, avec Pierre Amiche, avec Wilfried Templier qui est à l'entraînement pour l'instant. On le laisse tranquille. Et également avec Pierre Thévenet qui va suivre pour nous le match entre le Stade français et Montpellier, parce que oui, c'est un week-end de doublons, il y en a partout, il y a des matchs de tous les côtés ce week-end. Salut Pierre.
Salut Christophe, salut à tous.
Le Stade Jean Bouin, donc, que connaît bien Pierre Rabadan. Hein, un peu ton jardin là-bas. Hein, tu connais toutes les mottes de terre.
J'en ai profité que 2 ans hein, finalement du nouveau stade.
Eh oui, c'est vrai.
Mais bon, oui, je. Quand même quelques repères encore.
Pierre, des repères, l'équipe du Stade français, on a quelques-uns depuis le début de la saison, même s'il a perdu la dernière fois, une défaite en championnat sur la cloche, en toute fin de match, ouais, face à Bayonne. Et aujourd'hui, voilà que se présente le champion de France, qui va pas très fort de son côté. Hein.
Non, deux équipes qui ont des dynamiques très différentes. Le Stade français est deuxième du top 14, à la deuxième meilleure attaque, la deuxième meilleure défense, est en forme. La défaite à Bayonne la semaine dernière, elle a fait mal, mais elle s'est jouée sur le gong, 29-26, face à une équipe qui n'a pas perdu à domicile cette saison. Alors qu'en face, Montpellier, c'est beaucoup plus compliqué. Il reste sur 3 défaites consécutives, à Lyon la semaine dernière, face à Toulon à domicile et à Toulouse, en plus 3 concurrents directs. Donc une période difficile pour Montpellier, mais Quesada, l'entraîneur du Stade français, a dit que c'était la pire période pour rencontrer les champions en titre, qui ont besoin de points, qui ne sont que 9e du championnat à 7 points des places qualificatives.
Ah ouais, c'est le pire moment, Pierre, pour rencontrer Montpellier quand tu es parisien, que tout va bien jusqu'à présent, que tu rencontres une équipe de Montpellier qui est 9e du top 14.
C'est un peu moyen de s'enlever de la pression en
oui,
disant bah, ça.
C'est une bonne guerre.
Ouais. Voilà, mais après, est-ce que c'est le pire moment? Je sais pas. C'est sûr que on regarde leur classement et c'est les saisons post-titre. Hein. Bon, c'est la première pour Montpellier. Elles sont toujours compliquées. Et là, s'ils veulent garder un espoir quand même de candidater au top 6, il faut qu'ils fassent une perf à l'extérieur. Et évidemment, c'est une opportunité aujourd'hui.
Ils sont à 6 points de la 6e place quand même. Hein.
Ouais,
il faut pas tarder. Hein,
c'est pour ça. Donc, je pense que c'est comme ça que Gonzalo Quesada l'a abordé. Cette défaite à Bayonne, elle a dû leur faire un peu mal quand même, vu le scénario. Mais ils vont être forcément dangereux. Avec quand même quelques joueurs absents aussi côté Montpellier, hein, mais une équipe sur le papier assez solide.
Il y a beaucoup de joueurs des deux équipes qui sont en sélection ce week-end, Pierre, où on s'en sort pas trop mal du côté du Stade français de Montpellier.
Quel Pierre?
Il y en a un paquet.
Pierre, on est trois.
C'est vrai qu'il y a trois Pierres là. Oui, j'ai plus les trois Pierres. Pierre Thévenet.
Côté Stade Français, il y a quand même deux cadres qui sont absents. Julien Delbouille au centre, qui ne jouera pas avec l'équipe de France demain, mais qui a été conservé dans le groupe. Et puis Sékou Makalou, le troisième ligne, qui est sur le banc de l'équipe de France demain. Donc deux absents côté parisien, trois absents majeurs côté montpelliérain. Mohamed Awas et Paul Willemse qui sont en équipe de France. Et puis Paolo Garbisi qui va jouer avec l'Italie là dans quelques minutes face à l'Irlande.
Et oui, Garbisi, effectivement, joueur important de cette équipe qui va donc affronter l'Irlande avec l'équipe d'Italie. Merci beaucoup, Pierre. On te retrouve donc pour le coup d'envoi de ce match dans un petit quart d'heure maintenant. Il y a du monde à Jean-Bois cet après-midi ?
On va dire que ça se remplit doucement.
Ouais.
On aimerait bien que ça se remplit.
2000 quoi. Non, combien ?
Oui. Ah, c'est bien clairsemé. Je ne peux pas dire combien il y en a actuellement, mais. Quand même. Oui, on est certain qu'on arrive à 7000, ouais. Bon.
C'est, de toute manière, Pierre, Rabadan, c'est compliqué pour les amoureux de rugby, un week-end comme ça, qui ne savent plus donner de la tête. T'as des matchs internationaux par-ci, un match de top 14 par-là, l'équipe de France qui joue demain, tu ne sais plus où donner de la tête, quoi.
Il y a un peu de ça, en plus,
Pierre Amiche, par exemple, sa femme l'abandonne complètement ce week-end. Elle sait qu'il va passer 24 heures dans la
partie,
télé.
Elle est partie.
D'ailleurs, elle a fait ses valises ce matin. D'ailleurs, si tu m'écoutes.
Non, mais oui, c'est compliqué parce que c'était en pleine vacances scolaires, donc déjà t'as un certain nombre de Parisiens qui sont et de Parisiennes qui sont partis. Et puis effectivement, c'est un week-end de doublon où t'as un match au Stade de France le dimanche après-midi, où t'as un match à Jean-Bouin. Donc ouais, c'est toujours les mêmes problèmes. Hein.
Tu arrives à t'intéresser au top 14 là en ce moment en période internationale comme ça ?
Oui, mais moi je m'intéresse, mais c'est alors, en fait c'est que c'est illisible. On en parle régulièrement à chaque semaine quasiment ici. Parce qu'après, il faut comprendre comment ça fonctionne, pourquoi ça joue parfois en même temps, pourquoi des fois il y a des matchs du tournoi à destination et pas de matchs du top 14, alors que des fois il y a des matchs du top 14, comme la semaine dernière, mais il n'y a pas de matchs du tournoi alors que c'est en plein milieu.
Pourquoi il y a des joueurs de l'équipe de France qui ne sont pas en équipe de France mais qui ne reviennent pas en club non plus ?
Ouais. Messieurs, je vous coupe. On fait place à une dame, une grande dame du sport français qui a décroché il y a quelques minutes un quatrième titre de championne du monde. Perrine Lafont est en direct avec nous depuis le fin fond de la Géorgie. Elle est à Bakuriani. Oh là là, ça c'est loin. Bonjour Perrine, comment ça va ?
Bonjour, là ça ne peut que bien aller, je pense.
J'imagine, un quatrième titre de championne du monde dans l'épreuve de boss simple. Donc c'était toi toute seule face au boss. C'est la discipline que tu préfères ou tu préfères l'autre épreuve, les bosses parallèles ?
Non, c'est quand même la discipline que j'affectionne le plus parce que c'est là où tu vas pouvoir le plus t'exprimer et pouvoir montrer le plus beau run au juge. Il y a un peu plus de stratégie sur le duel, ça se fait un peu plus peut-être au mental et moi j'aime être tranquille sur la piste et skier quoi.
Bon, et alors ça suscite un gros engouement ces championnats du monde à Bakuriani. Est-ce qu'il y a beaucoup de monde sur le bord des pistes ? Est-ce que le ski freestyle est à droite cité en Géorgie ? Moi je connais pas bien les montagnes géorgiennes, il paraît qu'on skie, qu'il y a un magnifique ski à faire là-bas.
Ouais, c'est vrai que c'est des montagnes magnifiques, des belles montagnes comme on peut parfois retrouver dans les montagnes françaises.
Ça ressemble aux Pyrénées quoi, en gros, tu es en train de me dire que ça ressemble aux Pyrénées.
Non, les Pyrénées c'est au-dessus. Jamais, rien ne pourra égaler les Pyrénées. Mais non, c'est une belle station de ski. Enfin, en tout cas, nous on a eu de la super neige. La piste était très belle et non, c'est des beaux championnats du monde. Il y a eu du monde en bas. Il y avait des fans et du coup non, c'est cool.
Bon, et toi, ils sont pas terminés encore ces championnats du monde parce qu'il y aura donc la deuxième épreuve demain. Perrine, on est ravis de te revoir au plus haut niveau. C'est vrai que il y avait eu cette petite déception l'an dernier aux Jeux Olympiques. Il y a eu des moments compliqués. Parce qu'évidemment, on se remet en question quand il y a une défaite comme ça. Et aujourd'hui, tu reprends du poil de la bête et te voilà à nouveau au sommet. Comment tu as vécu toute cette période ?
C'est vrai que c'est des périodes très compliquées. Je ne vais pas le cacher. Il y a beaucoup de questionnements, de est-ce que je vais y arriver ? Mais en fait, l'essentiel, c'est d'avoir un staff autour de soi qui va parfois croire plus que vous.
On a perdu Perrine Lafont, la Géorgie et les réseaux téléphoniques, c'est peut-être pas ça.
À pouvoir aller chercher.
Ah. Oui, ça y est, on t'a récupéré.
Allô
oui, Perrine, Oui, on t'a retrouvé, Perrine.
C'est bon, je suis repartie, désolée. Et ouais, c'est grâce à un gros staff autour de moi, les entraîneurs, les préparateurs physiques et tout, et les préps mentaux qui me poussent tous les jours et qui m'amènent à cet état d'esprit qui me permet d'être libéré de ce qui est comme j'ai pu le faire aujourd'hui.
Voilà. Et donc, ce nouveau titre de championne du monde, ça fait 4 quand même. Hein. Ça commence à faire un sacré palmarès. Bon, t'es pas encore au niveau de l'Australien qui s'est imposé tout à l'heure. Il t'en faut encore 3 de plus, hein, c'est ça ? du Canadien, pardon, pas du Canadien, pas de l'Australien. Michael Kingsbury.
Je sais pas, désolé, j'ai pas suivi. Oui. Je sais pas qui c'est. Ah oui, d'accord. Ouais, bah il est un peu plus vieux, donc c'est bon, j'ai le temps. Il a quand même 6 ans de plus que moi, quoi.
Ah ouais, donc tu vas le bouffer, quoi. Tranquille, dans 6 ans, t'en auras un paquet en plus des titres de champion du monde. Ouais. Bon, demain, l'épreuve parallèle. C'est demain, c'est ça, les finales des parallèles?
Ouais, c'est ça exactement.
Bon, et là aussi l'objectif c'est évidemment d'écraser la concurrence comme tu l'as fait aujourd'hui.
Bah ouais, je vais profiter quand même de mon titre ce soir parce que c'est particulier, un titre de champion du monde. Mais ouais, demain on va tout envoyer, ouais, comme on fait d'habitude.
Eh ben bravo. Eh ben on te souhaite une belle soirée d'abord, Perrine, ce soir donc à Bakuriani en Géorgie. Et puis donc demain, bon, on te rappelle pour un deuxième titre. Hein. On fait comme ça.
Ouais, on fait ça. Merci beaucoup, bonne soirée.
Merci Perrine, bonne fiesta donc ce soir en Géorgie à l'occasion de ce quatrième titre de championne du monde pour Perrine Laffont, championne également, championne olympique, on le rappelle, une des plus grandes dames du ski et du sport français en ce moment. 14h50, nous sommes de retour ici en studio avec Pierre Rabadan qui aimerait bien que la Géorgie rentre peut-être dans le tournoi. Ce serait sympa l'occasion d'aller visiter la... Hein,
dans le tournoi destination, ouais. Pour le faire les 7 nations.
Les 7 nations, ouais. Les 7 nains et les 7 nations.
Ouais, je sais pas, non, je suis pas, c'est pas, ils progressent beaucoup, hein, la Géorgie. Ouais. Sportivement, ce serait peut-être intéressant, mais après, on va finir à 8, à 9 nations. Bon, pourquoi pas, hein, mais, non, moi, je suis quand même, j'étais très favorable à l'entrée de l'Italie. On voit qu'elle a eu du mal, quand même.
Ouais.
Pardon, à trouver un niveau, régulier, mais maintenant, ils s'en rapprochent. Bon, après, sinon, il faut créer d'autres compétitions, mais bon, la Géorgie...
Il y a un tournoi B qui existe, hein, Pierre-Michel.
Tout à fait, un tournoi B avec la Roumanie, le Portugal, l'Allemagne, ouais. La Géorgie. Le problème, c'est que la Géorgie...
Économiquement parlant, c'est pas...
Puis la Géorgie est nettement au-dessus jusqu'à présent, elle a sur une série de victoires impressionnantes. Mm-hmm. Bon, après, je suis étonné, Pierre, parce que t'avais quand même un jeu plus géorgien qu'italien, toi, sur le terrain. Donc bon, je me suis dit...
Je vois pas ce que ça veut dire. Il faudra que tu traduises.
Non, pas du tout. Ah non, mais moi, j'adore. On juge pas la Géorgie. Non, mais c'est vrai que la discussion avait pu avoir lieu il y a quelques années parce que l'Italie était très très loin du niveau du Six Nations. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas. Et puis économiquement, l'Italie met beaucoup d'argent pour justement exister encore à ce niveau-là, au Six Nations, ce que la Géorgie n'est pas pour l'instant en capacité de faire. En dépit du fait qu'à Tbilissi, il y a des terrains d'excellence, une sorte de centre d'entraînement qui ressemble étrangement à Marcoussi, et qu'aujourd'hui, la Géorgie est en véritable progrès. On les a d'ailleurs vus remporter des victoires assez prestigieuses ces derniers mois. Reste que le chemin est encore long pour les Géorgiens pour intégrer le top 10 mondial.
La question se posera peut-être pas tout de suite, mais en tout cas, si elle se pose, pour moi, ce serait pas en remplacement de l'Italie, mais il faudrait donc changer un format avec une date de, enfin, avec
une
des dates en plus.
Ouais, avec l'Afrique du Sud, pourquoi pas.
Oui, après, tu rentres dans autre chose, quoi. Voilà,
ouais. C'est... Bon, mais, en tout cas, Denis Charvet veut pas qu'on enlève l'Italie du tournoi. Il adore.
Non, moi non plus. Je pense que, en plus, si, maintenant, sportivement, ils sont vraiment de mieux en mieux, et puis ils sont inscrits dans les compétitions, ils ont des provinces, voilà, donc voilà, ils ont sans doute passé le plus dur.
L'Italie qui affronte l'Irlande dans un gros quart d'heure maintenant. On va présenter ce match juste après les infos de 15h. Il est 14h52 sur RMC, les premiers directs arrivent, je vous le disais, donc Italie-Irlande à 15h15, Stade Français-Montpellier, le top 14 c'est à 15h, et puis également de la Ligue 2 au programme avec le match entre Grenoble et Le Havre qui débute dans 7 minutes. On va retrouver Edouard G dans quelques instants, à tout de suite.
RMC Intégral Sport. RMC Intégral Sport.
Christophe Cessieux.
15h01, vous êtes sur RMC, l'Intégral Sport, les premiers directs de l'après-midi et du week-end, avec donc le rugby au programme, le match entre le Stade Français et Montpellier qui a débuté il y a à peu près 2 minutes. Pierre Thévenet à Jean-Bouin.
Ouais, 2 petites minutes de jeu ici à Jean-Bouin, toujours 0-0 entre les deux équipes, mais les Parisiens sont partis très très fort. Une percée de près de 40 mètres de Marcos Kremer qui a renversé Anthony Boutier, l'arrière montpellier. Il a finalement été repris après un relais dans l'axe d'Abel Köfner. Les Montpelliérains ont pu gratter et se dégager. Il va y avoir un lancer montpelliérain sur leur 40 mètres à peu près. En tout cas, ça démarre très fort entre le Stade Français et Montpellier, toujours 0-0 après 2 minutes.
Voilà, 0-0 entre Montpellier et le Stade Français. Avec combien de spectateurs maintenant, Pierre? Ça y est, ça s'est rempli un peu?
Ça s'est rempli un peu. À l'œil, je dirais 6000. Allez, pour être gentil, 6000.
Ouais, c'est ce que tu avais dit, Pierre. Ouais. Pas mal, t'as l'habitude, quoi. C'est 6000, 6-7.
J'ai l'œil.
Mis à part pour les grosses affiches, à peu près ça.
Ouais. Je crois qu'ils sont en moyenne, ils sont à 9 000, un peu entre 9 et 10 000. Mais donc sur les grosses moyennes, tu montes à 15, sur les grosses affiches, tu montes à 15 000 et après t'es à 6, 7 000. Mais là, je te dis, il y a le tournoi destination et les vacances scolaires. C'est...
Ça fait beaucoup.
Alors que l'affiche est plutôt attrayante sur le papier.
Évidemment, face au champion de France, Montpellierin. Donc pour l'instant, 0-0 après 3 minutes de jeu entre Paris et Montpellier. C'est parti également au Stade des Alpes entre Grenoble et Le Havre. Il s'agit de Ligue 2 et c'est avec Edouard G.
Oui, depuis 3 petites minutes, toujours 0-0 avec des Havrais, les leaders de la Ligue 2 qui clairement ont mis le pied sur le ballon. Ils essayent de déployer des actions à droite et à gauche. Là, c'est Quentin Cornet qui va peut-être faire un bon centre. Le centre est fuyant et finalement il fuit tout le monde, défenseur, gardien et attaquant, et ce sont les Grenoblois avec Jordi Gaspard qui vont pouvoir repartir dans cette affiche de Ligue 2 entre le premier leader impressionnant, 22 matchs sans défaite depuis le 6 août dernier à Valenciennes, et puis des Grenoblois qui s'invitent peut-être, pourquoi pas, à être dans les premiers. Mais pour cela il faut absolument gagner cet après-midi. 0-0, 4 minutes de jeu.
Ouais, Le Havre qui, en cas de victoire cet après-midi, ferait quand même un pas de plus et un pas très significatif vers la Ligue 1. On rappelle que Le Havre a 9 points d'avance sur son suivant immédiat, en l'occurrence les Girondins de Bordeaux. Bordeaux qui jouera quand ? Qui jouera je ne sais pas quand. Qui jouera lundi. Voilà, qui sera en déplacement du côté d'Amiens. Ce sera lundi à 20h45. Voilà pour les premiers directs qui seront rejoints dans une dizaine de minutes maintenant par Pierre Amiche et par le match entre l'Italie et l'Irlande. Donc, troisième journée du tournoi Destination et premier match de cette journée. On rappelle que demain, la France affronte l'Écosse. On a déjà évoqué légèrement ce match entre l'Italie et l'Irlande. L'Italie qui, après avoir inquiété la France, espère faire mieux face à l'Irlande aujourd'hui. Mais enfin, là, ce sera un miracle. Hein.
Ce sera un miracle. Hein. Pour faire très simple, la cote est à 1-0-1 pour l'Irlande juste avant le coup d'envoi. Ça risque d'être très compliqué pour les Italiens qui, pourtant, présentent leur meilleur 15 possible avec notamment le retour de leur maître à jouer, Paolo Garbisi, et puis le remplacement de Menoncello qui avait fait bonne impression à l'aile, qui va être replacé au centre, au poste de premier centre. On retrouvera évidemment Ange, Capuezzo, Padovani, Varney, Lamaro, les joueurs habituels de ce 15 italien, mais ça va être très compliqué. L'Italie qui reste sur deux défaites, une victoire courte 24-29 face à l'équipe de France, une défaite plus large et plus inquiétante face à l'équipe d'Angleterre qui avait littéralement roulé sur l'Italie, notamment devant. Et côté irlandais, on l'a évoqué tout à l'heure, on a fait tourner, ou en tout cas on a fait quelques choix un peu différents. On a le retour de Roman Keller au poste de talonneur, Jack Conan au poste de numéro 8, une charnière toute nouvelle, toute belle, Craig Cazé-Rosbyrne, qui va devoir faire oublier le duo quasiment séculaire Jonathan Sexton-Murray. Et puis on a une paire de centres expérimentales mais très très solides avec Bundyaki et Stuart McCloskey. L'Irlande qui reste sur deux victoires, qui est toujours en lice pour un grand chelem et qui risque, malheureusement pour les Italiens, d'avoir à la fois la possession, l'occupation et peut-être la victoire. C'est en tout cas l'objectif forcément pour les Irlandais.
L'Irlande qui, en cas de nouvelle victoire, s'approcherait évidemment du grand chelem. Il leur resterait quoi ? Le Pays de Galles,
l'Écosse, hein ? Déplacement en Écosse et réception.
Ah oui, déplacement, ah oui, les deux derniers matchs quand même sévères. Hein,
voilà, le déplacement en Écosse, c'est peut-être celui qui est le plus difficile, puisqu'après ça se terminera par une réception, la réception de l'Angleterre. On sait que l'Angleterre a quelques difficultés face à cette équipe d'Irlande version Andy Farrell, un sélectionneur anglais à la tête de l'Irlande. Et ce dernier match pourrait être le juge de paix de ce tournoi Destination. Et puis le grand chelem, il est encore loin. Il y a 3 matchs à gagner, ouais, donc ouais, ils n'ont même pas fait la moitié du chemin.
Bon, tu les vois bien terminer avec le grand chelem, Pierre.
Ouais, je suis d'accord, le plus gros match sera sans doute en Écosse. Même s'ils auront sûrement perdu au Stade de France, les Écossais. mais bon, l'Angleterre, il n'y a pas qu'avec l'Irlande qu'ils ont des problèmes. Hein, globalement, ils ne sont quand même pas... au niveau des meilleures nations mondiales aujourd'hui, donc voilà, pour l'Irlande, ça se jouera sans doute en Écosse si aujourd'hui ils sont capables de battre les Italiens avec le bonus, ce qui, même s'ils ont fait tourner, devrait arriver.
Un petit mot justement sur le deuxième match qui aura lieu tout à l'heure à 17h45 entre le Pays de Galles et l'Angleterre. Le Pays de Galles qui est considéré comme l'une des équipes les plus faibles, sinon la plus faible de ce tournoi. On verra le match face à l'Italie, hein, mais ce sera sans doute le match de la cuillère de bois pour l'un ou pour l'autre. Hein,
ce qui est complètement hallucinant de dire ça du Pays de Galles, qui était vainqueur du tournoi il y a 2 ans. C'est complètement hallucinant. Ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est qu'à domicile, le Pays de Galles version Warren Gatland a tout changé, ou presque, puisqu'ils vont renouveler l'effectif, ce que Gatland n'avait jamais fait, ou quasiment jamais fait, en 10 ans à la tête du Pays de Galles. On a décidé de changer la charnière, on a décidé de lancer enfin Louis Rhys-Zamit, la petite pépite galloise, en tant que titulaire. On fait revenir quelques quelques vieux grognards comme Taloupe Faletao ou Leïta Alfpeni. Et puis surtout Owen Williams, le demi d'ouverture, 30 ans, ce sera seulement sa quatrième sélection. Il était derrière Anscombe, Bigard, Priestland et toute une tripotée d'ouvreurs. Et il a enfin sa chance.
Attention, peut-être une occasion pour les Parisiens du Stade Français qui sont rentrés dans les 22 de Montpellier, Pierre.
Ouais, ça chauffe pour les Parisiens. Le ballon écarté jusqu'à Lester Etienne. Lester Etienne qui est repoussé des 22 mètres mais qui gagne son duel face à son vis-à-vis montpelliérain qui rentre à nouveau. Pour l'instant, depuis le début du match, on n'avait qu'un échange de coups de pied entre les demi de mêlée, demi d'ouverture. Mais là, voilà, les Parisiens sont à nouveau sanctionnés. Ça fait deux fois qu'ils rentrent dans les 22 montpelliérains grâce au percé de leurs avants. Là, c'est Vincent Coq qui était venu transpercer la ligne à nouveau, asseoir Anthony Boutier, le pauvre arrière montpelliérain qui a déjà pris deux avants parisiens lancés dans ce début de match. Mais à nouveau, les montpelliérains défendent bien et vont pouvoir se dégager. On joue la 8e minute de jeu ici à Jean-Bouin, toujours 0-0.
Merci Pierre, on te retrouve dans quelques instants. Pierre Amiche nous quitte, il va rejoindre son poste de commentateur pour le match entre l'Italie et l'Irlande alors que les deux équipes sont dans le couloir du stade olympique avant d'en pénétrer sur la pelouse pour ce premier match de la troisième journée du tournoi des Six Nations. Le foot, la Ligue 2, 8 minutes de jeu à Grenoble entre Grenoble... FC,
GF38 ça,
le GF38, pardon. GF,
Grenoble
c'est
Foot 38.
Moyen, c'est moyen ce nom, GF38. Bref.
Et l'autre équipe, c'est
le HAC.
Voilà.
Le HAC.
Voilà.
Là, plus vieux club français.
Eh oui. Exactement. Exactement. Donc, toujours 0 à 0 au bout de bientôt 9 minutes de jeu. Toujours...
Attention pour les Montpellierins, ça chauffe. C'est Kobus Reina qui va récupérer le ballon dans les 22 mètres parisiens et qui inscrit le premier essai pour le MHR. Tout est parti d'une percée magnifique de Takuaka, le troisième ligné Montpellierin qui est venu transpercer la défense, qui remet intérieur à son ouvreur Louis Carbonel. Louis Carbonel qui pousse au pied, rasant à l'entrée des 22 mètres parisiens. Et puis Kobus Reina, le demi de mêlée sud-africain qui a bien suivi. Et qui aplatit dans l'embut parisien sans opposition. Ça fait 5-0 pour Montpellier alors qu'on joue la 9e minute de jeu ici à Jean-Bouin.
La première essai Montpellier 1, Pierre, il n'y a rien à dire. Bah, sur
ça. Contre le cours du jeu, hein, si j'ai bien vu, parce que j'ai vu deux grandes percées du Stade français, mais des ballons récupérés sur les rucks. Et puis là, par contre, excellent réalisme des champions de France qui score avec rien. Avec Reinhard, c'est mieux. voilà, et après la belle percée d'Akuaka, donc et après 10 minutes, on peut dire qu'ils s'en sortent plutôt bien, Montpellier, je crois, hein, Pierre.
Oui, ils s'en sortent bien parce que les Parisiens avaient eu les deux plus grosses occasions. Après, Montpellier reste sur 3 victoires consécutives contre le Stade français, donc c'est pas une équipe qui réussit bien en Parisien. En tout cas, c'est eux qui démarrent le mieux ce match, alors que Louis Carbonel va pouvoir tenter la transformation. Elle est largement dans ses cordes, à peu près sur les 15 mètres face au poteau parisien.
Carbonel qui est le meilleur réalisateur du championnat, juste devant Joris Segond.
Exactement, Joris Segond qui est troisième. Ouais. Deux très beaux buteurs pour les deux équipes. Et ça passe pour Louis Carbonel. Montpellier mène 7-0 face à Paris alors qu'on joue la 10e minute de jeu.
Ok, merci Pierre. Retour donc à Grenoble avec Edouard pour ce match de Ligue 2 entre Grenoble et Le Havre.
Allez, bientôt 11 minutes de jeu, toujours 0-0, pas d'action franche de part et d'autre, mais c'est vrai qu'on voit quand même de belles tentatives de construction des deux côtés. On veut repartir depuis le gardien, on veut essayer dans les petits espaces de troubler la belle organisation adverse. Et à l'instant là, ce sont les Grenoblois avec Sbaï qui va complètement changer le jeu pour Bamba qui va finalement être arrêté irrégulièrement, indique l'arbitre. Ça va nous faire un coup franc assez lointain. Donc pour l'instant, cette affiche est assez intéressante, assez vivante. Mais au bout de 11 minutes, il n'y a pas de but. 0-0.
Merci Edouard. Alors que Highland Call résonne dans le stade olympique de Rome, le chant de l'Irlande, cette team qui a été composée à la fin des années 90 pour que les joueurs des deux côtés de l'Irlande puissent chanter, et pas seulement les sud-irlandais, les républicains, mais aussi les joueurs issus de l'Ulster, donc citoyens leur gracieuse majesté, et qui désormais peuvent chanter Highland Call. On aura ensuite Fratelli d'Italia. Voilà donc pour Highland Call, toujours aussi magique cet hymne, même si on espère évidemment que les Italiens vont mettre à mal ces Irlandais. Le Stade français qui affronte Montpellier, qui est mené sur sa pelouse par les champions de France, Pierre Thévenet.
Oui, toujours 7-0 pour Montpellier à la 12e minute. Et les Montpelliérains ont à nouveau un très bon lancement de jeu sur les 40 mètres parisiens. Les Parisiens qui ont été une nouvelle fois sanctionnés dans les 22 mètres adverses. C'est la troisième fois déjà depuis le début du match qu'ils rentrent dans les 22 mètres et puis qu'ils se font sanctionner. Et là, le lancement est Montpellierin avec Carbonel. Carbonel qui lance ses avant. À nouveau Dakouaka qui fait mal au défenseur parisien, qui a cassé deux plaquages, qui a transmis à Karl Martin, le jeune centre irlandais qui fête sa première titularisation en top 14. Kobus Reina qui rentre dans la défense, qui casse un plaquage à nouveau. La défense parisienne est mise à mal. Penga Amosa, le relais dans l'axe. Les Montpelliérains sont déjà à 5 mètres de l'embut parisien. Ils démarrent très fort ce match et c'est à nouveau Dakouaka qui relève. C'est la troisième fois là dans cette action qu'il vient déjà mettre à mal la défense parisienne. Ça va être un jeu d'avant. C'est, il me semble, Marco Tolègne qui vient de relever ce ballon, qui est refoulé pour l'instant par la défense parisienne. Ça défend bien, mais ça chauffe. Attention, c'est la Mocité Lé Le Pilier qui est repris à quelques centimètres de l'embut. Kobus Reina qui réorganise ses avants. Dakouaka qui repart au ras. Pour l'instant, les Parisiens tiennent bon. Mais c'est compliqué de résister à ces Montpelliérains. Tous les Montpelliérains quasiment sont dans les 15 mètres, hein, près de la ligne de touche. Ils sont tous concentrés pour essayer de resserrer cette défense parisienne avant de peut-être écarter le ballon. Ça chauffe. Ça chauffe. On est toujours à 1 mètre de la ligne. Pour l'instant, les Parisiens arrivent à s'en sortir. Le ballon est ralenti, ça ressort avec Penga Amosa. Penga Amosa qui perd son duel face à Jeremy Ward, qui le repousse bien, le patron de la défense parisienne, mais Jeremy Ward qui est sanctionné pour un plaquage haut. Il y aura un avantage. Kobus Reinhardt au ras, il est un tout petit peu court, ça se joue à quelques centimètres là. Attention sur la droite, il y a un énorme surnombre. Carbonel, Carbonel pour Boucher. Le deuxième essai Montpellierin. Le deuxième essai Montpellierin à la 13e minute de jeu ici à Jean-Bouin. C'est Anthony Boucher qui vient marquer après une séquence de plus d'une minute le long de la ligne parisienne. Les Montpellierins qui sont allés chacun de leur avancée pour essayer de faire mal aux Parisiens. Ils ont resserré cette défense et finalement sur le large, c'est Anthony Boucher qui vient trouver la clé. Déjà 12-0 pour Montpellier à la 13e minute de jeu.
Ouais, ça fait mal, hein, ça fait mal aux Parisiens. Deux essais encaissés coup sur coup, Pierre.
Ouais, et là, contrairement au premier essai, c'est une énorme séquence, hein, des Montpellierins où les Parisiens sont accrochés, mais ça a fini par céder. Et Montpellier qui est parfaitement finalement rentré dans ce match et qui maîtrise après un début de match à l'avantage des Parisiens. Mais là, franchement, la séquence était impressionnante à la fois par la puissance physique des Montpelliérains et leur capacité à enchaîner. Donc rien à dire, hein, pour moi, cet essai est tout à fait logique.
Et à nouveau c'est Dakouaka, hein, qui vient faire la différence au centre, ouais, du terrain. On avait peur pour cette troisième ligne montpelliéraine puisqu'elle est privée de Yacouba Camara, de Mercer, de Béconnier également. Et bien là c'est Dakouaka qui prend la relève et qui a déjà percé deux fois la défense parisienne et ça a amené à deux essais, alors que c'est Anthony Boutier qui va transformer cet essai puisque Carbonel a été un petit peu secoué sur l'essai et ça passe en plein milieu des poteaux pour Anthony Boutier. 14 minutes de jeu, 14-0 pour Montpellier ici à Paris.
Ouais, Dakouaka, comme Philippe Saint-François essaie le faire, hein, qui a été changé de poste, hein, quand il est arrivé à Montpellier et qui brille aussi pas que à l'aile mais aussi à l'aile de la troisième ligne.
Anthony Boutier qui a donc inscrit le deuxième essai montpelliérain, lui qui aurait pu être aujourd'hui au Stade de France à l'entraînement du capitaine, qui a été l'arrière de ce 15 de France, les débuts de Fabien Gatier, puis qui a été écarté aujourd'hui mais qui reste un très bon joueur de rugby et qui fait les beaux jours de Montpellier, Pierre, hein.
Absolument, ouais. Absolument. C'est un joueur qui, à un moment, on pensait indéboulonnable, ouais, quasiment, ouais, en équipe de France, qui a fait une saison magnifique, hein, comme d'ailleurs l'ensemble de l'équipe de Montpellier, qui était installée en équipe de France et puis qui a vu Melvin Jaminet puis Thomas Ramos arriver. Et aujourd'hui, il a eu lui personnellement un début de saison un peu plus compliqué. Donc aujourd'hui, voilà, il faut repartir par des performances en club. On entend souvent cette gimmick, mais elle est réelle. Et j'imagine qu'il doit avoir à cœur de briller aussi aujourd'hui en ce jour de doublon avec ce week-end de doublon avec les Six Nations.
Ok, 14-0 pour Montpellier sur la pelouse du Stade Français. Il va falloir se réveiller vite, hein, pour les Parisiens. Le coup d'envoi d'Italie-Irlande a été donné ou pas encore, Pierre ?
Pas encore, ça ne serait tardé d'ici quelques secondes. Voilà, les deux équipes sont en cercle au milieu du terrain. On attend de dégager les outils pour pouvoir sonoriser les hymnes. Ça devrait commencer d'ici quelques instants.
Très bien, le foot, la Ligue 2, ce match entre Grenoble et Le Havre. Edouard, j'ai sur
toujours
place.
Toujours 0-0, bientôt 20 minutes de jeu avec un coup dur pour les Grenoblois. Axel Ngando qui est de nouveau blessé, lui qui était arrivé en janvier 2022 pour cause de blessure. Il n'avait fait que 4 matchs l'année dernière, cette année il n'en a fait que 13 parce que perclus de blessure. Il revenait aujourd'hui après 6 semaines d'absence, un problème à la cuisse, et visiblement c'est le même endroit qui a craqué, et donc Vincent Ognon qui doit faire un changement. C'est Pape Messaba qui c'est plutôt Joris Correa qui l'a remplacé, donc il faut changer au niveau de l'organisation du côté de Vincent Ognon. Du coup, cette blessure, ce changement, ça a un petit peu cassé le début de rythme qu'il y avait dans cette partie. Et pour l'instant, toujours 0-0 et toujours pas de but et toujours pas d'action dangereuse de part et d'autre. Le premier corner de la partie, ce sera pour Le Havre dans quelques secondes. Mais on en reste, mon cher Christophe, mon cher Pierre, à 0-0, 17 minutes de jeu.
À tout à l'heure, Edouard. Le coup d'envoi cette fois-ci a été donné au Stade Olympique de Rome. Pierre Amiche.
Tout à fait. Première tentative italienne qui met, l'équipe d'Italie qui met beaucoup de rythme avec cette sortie de camp. D'abord contrée, puis la tentative à la main des Italiens avec leur talonneur Nico Terra qui va créer un point de fixation. On va pouvoir se dégager avec le pied gauche de Garbisi qui va aller chercher très loin dans le fond du terrain, mais c'est directement dans les bras de l'arrière-irlandais Hugo Keenan qui a fait très mal à l'équipe de France et qui va pouvoir relancer le premier ballon irlandais. Et les Irlandais qui vont aller peut-être tenter de fixer là-bas, petit côté. On est à 55 mètres de l'embut italien, autant dire que l'essai n'est pas fait. Mais les Irlandais qui décident de tenir le ballon et qui vont aller tenter d'harceler la défense italienne avec notamment cette charnière toute neuve, Kazé, Byrne, et cette première tentative avec Josh Van Der Fuyr, le meilleur joueur du monde, qui va percer le 3 contre 2 de l'extérieur. Il va pouvoir s'appuyer sur son ailier James Love qui va aller défier Andrea Puzzo, et l'essai de James Love. On joue depuis moins de 2 minutes côté irlandais. Première action d'ampleur, premier franchissement pour Josh Van Der Fuyr, le meilleur joueur du monde, directement dans les mains de James Love. Ça sera un arbitrage vidéo, on va vérifier comme face à l'équipe de France si James Love a laissé traîner un crampon en touche ou non. Mais énorme entame de match de l'équipe d'Irlande, l'illusion n'aura pas duré très longtemps côté italien.
Ah, effectivement, c'est parti très fort pour les Irlandais d'entrée de jeu qui mettent à mal la défense italienne. L'après-midi peut être longue, hein, pour les Italiens, Pierre.
Oui, ils ont gardé le rythme de la fin de match contre l'équipe de France. Et effectivement, on pouvait s'attendre à un peu de résistance côté italien. C'est apparemment pas le cas, hein, pour le
non,
moment.
Et... mais petit répit pour les Italiens, manifestement. James Love a laissé tomber le ballon dans l'embut. Ah. Énorme défense d'Ange Capuzzo, parce que James Love, il lui rend 25 kilos. Hein, donc bravo à lui, s'est accroché sur le dos de l'attaquant irlandais pour le déséquilibrer. L'attaquant irlandais néo-zélandais de naissance, qui est extrêmement adroit, mais qui là a peut-être été un peu présomptueux, Pierre, puisqu'il s'est présenté dans
l'embut avec le ballon à Hussein. Pierre, c'est la question.
Ah, oui, est-ce que le réalisateur irlandais a fait le déplacement d'Italie cet après-midi ou
non? C'est un réalisateur italien. Ah ouais. Donc on risque de voir quelques ralentis, mais ça semble assez clair, hein, malheureusement pour l'équipe d'Irlande. Le boulet passe à si près que le chapeau tomba. Les Italiens se sont fait très peur. 1 minute 30 de jeu, toujours 0-0. On voit de multiples angles au ralenti qui sont proposés. James Love lâche le ballon dans l'embut. En termes de tenue du ballon, c'est peut-être pas l'idéal, le ballon à une main dans l'embut, Pierre.
Il a fait un touchdown.
Ouais, c'est ça.
Il n'y a pas d'essai, il va être...
Essai refusé par Mike Adamson, c'est donc un renvoi d'embut pour les Italiens qui se sont fait très peur. 1 minute 30 de jeu et 0-0 au Stade Olimpico.
Ok, allez, on va partir pour le quintet du jour avec Dimitri Blanc-L'Œil. Ça se passe à Auteuil. Salut Dimitri.
Bonjour messieurs, bonjour à tous. Effectivement, on est dans le temple de l'obstacle. Il nous reste 1 minute 30 à vivre. C'est des grosses épreuves ça, Christophe, hein. 3600 mètres. Voilà. Est-ce que t'as le cardio toi, Christophe, pour suivre
3600 mètres à combien? Ça va à combien?
Bah, 48
km/h. 48
km/h. Sur un cheval, tu l'as.
Sur la moto peut-être. Oui, sur la moto, oui, je pense. Effectivement, parce qu'il y a quand même un poids à respecter, hein, pour les jockeys qui sont en selle. Tu sais, ils montent entre 57 et 60 kilos, donc
Faut deux chevaux, quoi.
Faut deux. Allez, on est à 1200 mètres de l'arrivée de ce quintet. Donc nous sommes à Auteuil. Pour l'instant, c'est Risque du Brésil numéro 2 qui a pris l'avantage dans cette épreuve. On n'a pas eu de chute et fort heureusement, pour l'instant, tout le peloton est présent et il n'y a pas eu de concurrent arrêté. Donc voilà, ils sont encore 16 en piste avec les concurrents qui rentrent dans les derniers 1000 mètres. Il reste 1 km. Deuxième position pour le 5, c'est Picnic qui a pris la tête, hein, d'ailleurs, pour aborder le dernier tournant, avec la deuxième position pour le 4 Mujik, un des favoris de cette épreuve, où on est 6-1 d'ailleurs, le favori numéro 10. Il est environ 5-6e. Il est encore dans le coup, hein, pour les premières places, 6-1. Il est juste derrière les leaders, alors qu'ils sont dans le dernier tournant. Le numéro 2 qui a l'avantage, c'est Risque du Briser en deuxième position. Le 5 Picnic est à son extérieur, troisième position pour le 4 Mujik qui vient en troisième épaisseur et qui ramène notamment dans son sillage le numéro 6, c'est Guy Longsport qui vient se placer en quatrième position. Entrée de la dernière ligne droite, il reste 500 mètres à parcourir. Vous avez encore un obstacle et ensuite ça sera la ligne droite finale juste derrière cet obstacle avec le numéro 4 Mujik, l'un des deux atouts de François Nicole qui a pris l'avantage. Mais attention au numéro 6 Guy Longsport qui vient bien en pleine piste. Ça va se jouer a priori peut-être entre ces deux concurrents là, même si le numéro 10 6-1 refait beaucoup de terrain. Ils sont trois pour la victoire actuellement et ça revient même en plein milieu avec le numéro numéro 14, Cembrion, qui refait un terrain monstre. Alors que nous sommes environ à 180 mètres de l'arrivée, ils sont 5 quasiment sur la même ligne. C'est vraiment une drôle d'arrivée dans ce quintet. Mais c'est le numéro 6, Geelong Sport, qui a priori côté corps va peut-être le faire. Attention à Cembrion, le numéro 14, très serré pour la victoire entre le numéro 14 et le numéro 6. Le 14, Cembrion, face au numéro 6, Geelong Sport. On voit le ralenti. Ah, j'ai l'impression que c'est fait quand même pour Cembrion, le numéro 14, et il est affiché photo.
Il est hors jeu là.
T'as dit quoi?
Non. La barre a jugé qu'ils étaient sur la même ligne.
Effectivement, il y en a un qui est un petit peu devant. Je pense que c'est le numéro 14, Cembrion. On va rester prudent hein, parce qu'il y a une photo finish. Alors, c'était une arrivée d'outsider, Christophe. Hein. Tu vois les cotes, 19 contre 1 et 52
c'est
contre
pas mal,
1.
Ça.
Ça veut dire que.
Tu l'avais donné ça ce matin ou non?
Non, on les a pas. On a fait le quintet avec les courses RMC. On n'a pas ces deux chevaux-là. Pour être très honnête, on a le numéro 10, on a le numéro 1 et on a le numéro 4. On en a 3.
3 sur 5.
Ah, on en a 3 sur 5. C'est vrai que c'était difficile d'aller chercher finalement ce numéro 14 qui est proposé à 52 euros. Bon voilà, il y a toujours photo 6-14. J'ai l'impression qu'on a une préférence quand même pour le numéro 14. Donc photo 6-14 pour l'arrivée du quintet. Et ensuite 10, As et 4. Voilà, on fera l'arrivée dans une trentaine de minutes, Christophe, ouais. L'arrivée définitive et les rapports de ce quintet.
Il n'est pas à vendre ce bel hippodrome d'Auteuil parce qu'il est magnifique. Hein.
Non, il n'est pas à vendre.
Non, parce qu'il y a le Paris Saint-Germain qui cherche un terrain.
On parlait de Saint-Cloud. On parlait de celui de Saint-Cloud pendant.
Pas constructible, monsieur. Monsieur.
On n'a pas le droit. On va laisser la verdure parce qu'autrement, les
gens n'ont pas
le faire la tête en plus. Merci Dimitri, à tout à l'heure donc, pour les résultats définitifs de ce quintet.
PMU, que les meilleurs gagnent. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Alors, il n'y a pas eu essai tout à l'heure, mais depuis, il y a eu essai quand même, Pierre.
Et oui, le rugby, c'est facile quand c'est joué par les Irlandais. Magnifique action sur le coup de pied de renvoi de Garbici. Deux temps de jeu, une passe petit côté, et puis le talent de Bundy Aki et James Love qui vont décaler à eux deux et quasiment tout seul leur deuxième ligne. James Ryan qui va inscrire le premier essai de ce match. Le capitaine qui plonge en coin. Ça fait 5 à 0 au bout de 6 minutes de jeu au Stade Olympico.
Il est 15h23-24 même sur RMC, on revient dans un instant. Je vous rappelle que le Stade français est mené et bien mené sur sa pelouse, 14-0 par Montpellier, et que l'Italie est également menée sur sa pelouse, 5-0 par l'Irlande à Grenoble. Rien de rien pour l'instant, 0-0 entre Grenoble et Le Havre. À tout de suite sur RMC.
RMC
Intégral Sport. RMC Intégral Sport.
Christophe Cessieux.
15h28, le score a évolué. Ben oui, les Italiens ont marqué, Pierre Amiche. Incroyable, passé l'Irlande.
Et oui, qui a dit que le rugby gallois était en crise. Attention ici avec la percée de Lorenzo Cannone qui va se présenter de nouveau dans les 22 mètres irlandais. C'est la panique du côté du trèfle. Le ballon qui va pouvoir ressortir avec Nico Terra qui va percuter son vis-à-vis.
Et c'est parisien. L'essai du Stade français. L'essai du Stade français après un ballon porté parisien. Les trois quarts n'y parvenaient pas depuis le début du match. Beaucoup de ballons tombés. Du coup, on s'en remet à la puissance des avants. Une pénalité pour Joris Segond qui va chercher la touche à 5 mètres. Le lancer de Laurent Panis. Et là, derrière, les avants déroulent. Le mot l'a mis, je sais pas, 2-3 secondes arrivé dans l'embute à peine. Ils ont totalement emporté le pack montpelliérain. Et du coup, l'essai en coin marqué. Non, c'est Marcos Kremer. C'est Marcos Kremer qui a été le dernier à prendre ce ballon et à aplatir. La transformation sera en coin pour Joris Segond. En tout cas, à la 28e minute de jeu, le Stade français réagit et n'est plus mené que 14-5.
Voilà, ça commence à réagir côté parisien, ouais. Pierre.
Ils ont mis la marche avant, effectivement, après un début de match dominateur, mais absolument improductif. On est revenu au basique. Une touche devant, un ballon porté et un essai de Kremer, mais ils ont encore du retard. Mais enfin, ils existent au tableau d'affichage maintenant, comme les Italiens.
Ouais, on va repartir au Stade Olympique dans un instant. On suit la transformation de Joris Segond qui pourrait permettre de revenir à 7 points du MHR, des champions de France, Pierre.
Ouais, transformation en coin. Le ballon est tombé. Apparemment un peu devant pour Joris Segond, qui est un petit peu perturbé dans ce début de match. Tout à l'heure, il a manqué une pénale touche qui aurait permis justement aux Parisiens d'enfin respirer un petit peu et d'investir le camp montpelliérain. Les Parisiens qui sont maintenus dans leur camp depuis le début du match par des Montpelliérains très très agressifs en défense. Et là, la transformation de Joris Segond en coin, elle était difficile. Elle passe. Le Stade français n'est plus mené que 14-7 à la 29e minute de jeu ici à Jean-Bouin.
Et voilà, belle réaction du Stade français comme la réaction de l'Italie. Pierre qui a bien failli marquer un deuxième essai à ces diables. irlandais, les Italiens qui sont passés devant au tableau d'affichage.
7 à 5 suite à un essai de l'Italien né au Pays de Galles, Stephen Varney. L'Italie qui joue sans complexe, c'est assez impressionnant, ils jouent tous les ballons, ils écartent absolument dès qu'ils peuvent, et suite à deux touches, ils ont quand même une pépite, un phénomène. C'est Lorenzo Cannone, le numéro 8 italien, qui réussit le tour de force de faire oublier Sergio Parisse. Il est quasiment impliqué sur toutes les actions chaudes de sa formation. Il est très rapide, très puissant. C'est simplement, c'est un 8 et très moderne, très plein de qualités, tout simplement. Et donc l'Italie qui mène 7 à 5 face à l'Irlande, qui vient de se créer une énorme occasion, qui a échoué à quelques centimètres de la ligne, à ballon gratté par Josh Van Der Fleer, le meilleur joueur du monde. Et l'Italie qui va pouvoir aborder cette première période sans complexe et continuer à mettre la pression à cette équipe irlandaise. 7 à 5, on joue depuis 12 minutes au Stadio Olimpico. Et franchement, l'équipe italienne est surprenante, séduisante, enthousiasmante même, Christophe.
Un essai chacun donc entre l'Italie et l'Irlande, et l'Italie qui mène de 2 points grâce à la transformation tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des buts? Est-ce qu'il se passe des trucs quand même à Grenoble, Edouard, entre Grenoble et Le Havre? Parce que je te sens un peu en dedans là.
Oui, parce que ça ronronne, il n'y a pas d'accélération, il n'y a pas de véritable action, toujours 0 à 0 au bout de 31 minutes et 30 secondes de jeu. Alors du coup, j'essaie
c'est dur le retour alors après 15 jours de championnat du monde de ski quand même. Hein.
Oui, c'est vrai. Ouais. Et puis surtout que je regarde autour les montagnes de Marseille, un peu de neige.
Il n'y a pas beaucoup de neige.
Non.
Pas des masses,
non.
Hein.
Donc voilà, il n'y en a pas des masses. Il n'y en a plus des masses du coup. Et il n'y a pas beaucoup de choses non plus. Il n'y a pas de masse de choses à vous raconter. Peut-être cette accélération grenobloise avec Sbaïla qui va récupérer le ballon en position d'ailier droit. Il va peut-être rentrer. Non, il va s'appuyer sur Bamba. Le 1-2. Sbaïla qui va centrer. Mais le bon retour de la défense, en l'occurrence de Christopher Opel, qui va dégager le ballon. Les Grenoblois qui sont mine de rien dans un temps fort. On a eu une action tout à l'heure de ce
match. Quel exploit Hugo Keenan qui se défait de 4 défenseurs. Un essai de 50 mètres en première main pour l'Irlande. Magnifique combinaison en touche sur une déviation. De nouveau, c'est Bundiaki, le bulldozer néo-zélandais qui joue pour l'Irlande, qui a fait la différence. Et Hugo Keenan pour sa 28e sélection signe déjà son 9e essai. Hugo Keenan qui avait fait très mal à l'équipe de France et qui de nouveau va marquer de son empreinte cette rencontre face à l'Italie. Mais quelle action avec McCloskey qui va aller fixer dans le dos l'intervention de Hansen qui va trouver Aki au milieu du terrain. Bundiaki qui va s'enfoncer dans la défense et trouver Hugo Keenan qui va résister à 3 plaquages et qui va aller déposer Ange Capuezzo pour aller marquer entre les perches. Ça fait 10 à 7 en faveur de l'Irlande. On joue depuis 14 minutes. La transformation est assurée par le buteur irlandais. Ça fait 14 à 7 en faveur de l'Irlande. On joue depuis 14 minutes en Italie.
Ce Keenan, Pierre Abadan, énorme. Il nous avait fait très mal, Pierre Amiche le disait la semaine dernière contre l'équipe de France. Et là, magnifique essai, il évite 3 plaquages.
Vraiment un des atouts supplémentaires pour cette équipe d'Irlande à l'arrière. Il est très bon, il est décisif, il est assez propre. On l'avait vu contre l'équipe de France. Pas toujours le plus créatif, mais c'est solide et c'est très fort. Donc c'est une arme supplémentaire, même quand ils sont un peu bousculés, ils ont Hugo Keenan à l'arrière et ça fait toujours du bien.
Et les Irlandais qui reprennent l'avantage au tableau d'affichage et qui mènent désormais 12 à 7, les Irlandais qui repartent à l'assaut, qui repartent de leur 22 quasiment. Mais on sait que cette équipe irlandaise avance très vite dans le terrain et ne va pas tarder à l'issue de cette combinaison peut-être de retrouver le camp italien. L'évolution, ça n'a pas évolué entre le Stade français et Montpellier, toujours avantage aux Montpellierains, mais les Parisiens se sont un petit peu refait la cerise. On rappelle qu'ils ne sont plus menés que 14 à 7 après avoir encaissé 2 essais coup sur coup en début de match. Edouard, on t'a coupé tout à l'heure alors que tu nous narrais les aventures des Grenoblois et des Havrais.
Ouais, pour une fois, il y avait une petite accélération dans cette rencontre, mais pas de but au final. 0 à 0, il y avait eu une grosse action de Bamba à la 27e sur une belle transversale de Jordi Gaspard et l'attaquant grenoblois avait réussi un crochet derrière armé son tir, mais finalement c'était passé légèrement à côté du but d'Arthur Desmas. Voilà la seule occasion que l'on a à se mettre sous la dent, et les Grenobloises à la 35e, et encore elle n'était pas énormément dangereuse, même si il y avait de l'idée. Messieurs, il faudrait un petit peu se réveiller si vous voulez un petit peu marquer des buts dans cette rencontre qui promettait entre le premier et le cinquième. Il suffit de dire ça, peut-être le contre avec peut-être la bonne sortie de Maubleu au pied devant Yann Kitala, parce que celui-ci était en train de récupérer un magnifique centre de Quentin Cornet et ça va nous donner désormais un corner, non, une touche à suivre. Tu vois, il suffit de demander qu'il se réveille.
Voilà.
Et ce sont les demander, Normands qui... exactement. J'avais oublié ça. J'avais oublié qu'il suffisait de demander. Mais on en reste quand même à 0 à 0. Mais voilà, quand même, une première action digne de ce nom et surtout un premier arrêt. C'était du capitaine grenoblois Brice Maubleu. Mais les leaders de la Ligue 1 n'ont pas ouvert le score sur cette action. Et du coup, on en reste à 0 à 0 au bout de 35 minutes.
15h35 sur RMC. On repart au stade olympique de Rome où l'Italie est donc menée 12 à 7 par l'Irlande. Mais à... tout de même réussi tout à l'heure à marquer un essai et à prendre l'avantage momentanément, mais c'est difficile face à cette équipe irlandaise qui a été pas mal renouvelée quand même, on le rappelle Pierre, hein, pour cette rencontre.
Oui, on a changé de talonneur, on a changé de 8, on a changé de charnière, on a fait rentrer deux nouveaux centres et pourtant l'équipe irlandaise produit un jeu assez bien huilé. Mais attention à cette équipe italienne qui n'a aucun complexe, à l'image de Ange Capuzzo qui relance depuis ses 22 mètres et qui va aller s'appuyer sur Menoncello qui va déborder le demi d'ouverture adverse, qui va taper à suivre dans les 22 mètres. Attention au rebond, c'est à la lutte avec le demi Cazet qui plonge, on est à 5 mètres de la ligne italienne, la pression, 5 mètres de la ligne irlandaise, oui, la pression italienne
ballon,
et pénalité en faveur des Italiens. Je vous ai dit, hein, Christophe, Pierre, ils jouent sans complexe ces Italiens, ils relancent depuis leur 22 et ils tentent tout simplement de mettre beaucoup de volume. C'est peut-être là la solution face à cette équipe d'Irlande, très solide, très disciplinée. Pour l'instant, une seule pénalité. En revanche, côté défensif, les Irlandais ne nous avaient pas habitués à ça, énormément de plaquages loupés, quasiment 13 en seulement 17 minutes, c'est beaucoup, c'est trop quasiment à ce niveau-là. L'équipe d'Irlande qui mène toujours 12 à 7, mais attention à cette équipe transalpine qui pour l'instant, et je vous l'ai dit, est enthousiasmante. Je ne sais pas Pierre si tu as souvenir d'une équipe italienne avec un aussi beau visage sur le 6 Nations.
Ouais, c'est vrai qu'ils y répondent présent malgré l'entame de matchs compliqués pour eux, mais pour les auditeurs peut-être qu'ils auront pu se rendre compte, hein, j'ai vu la stat, on est à 4 fois plus de plaquages côté irlandais que côté italien. Donc ça veut dire qu'ils font que défendre
par rapport au match entre la France et l'Irlande.
Pour l'instant les Irlandais ne font quasiment que défendre, même s'ils mènent au score. Donc ça confirme ce que tu dis Pierre, une équipe italienne entreprenante et qui joue son va-tout et qui va peut-être réduire l'écart là par Garbisi, je crois, qui va tenter la pénalité.
C'est Paolo Garbisi, le buteur montpelliérain, qui va faire défaut peut-être au MHR aujourd'hui, mais qui en tout cas fait le bonheur des Italiens. On sent qu'il y a vraiment une équipe italienne avec et sans lui, parce que Tommaso Allan est un très bon joueur, mais Paolo Garbisi est un petit phénomène, un prodige, qui va tenter de transformer, de passer cette pénalité pour revenir à 2 points de l'Irlande. Il est à 32 mètres, légèrement décalé sur la gauche des poteaux quand on les regarde. Le gaucher Paolo Garbisi qui jusqu'à présent réussit un match très solide, surtout dans l'animation, un peu moins en défense, parce que vous l'avez dit, hein, les Italiens dominent assez largement en termes de possession. Paolo Garbisi qui s'élance et ça va passer entre les perches. Ça fait 12 à 10 en faveur de l'Irlande, l'Italie qui est menée, mais l'Italie qui entreprend, joue depuis 19 minutes.
Rien n'est fait dans ce match, les Italiens qui offrent une très belle résistance pour l'instant à l'Irlande. 12 à 10 donc pour l'Irlande. Montpellier mène toujours sur la pelouse du Stade français 14 à 7 et 0 à 0 entre Grenoble et Le Havre. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de tous ces directs sur RMC.
RMC Intégral Sport. RMC Intégral Sport.
Christophe Cessieux.
Allez, 15h39, nous sommes en plein cœur de nos directs, notamment de rugby, avec un match du top 14 et un match du tournoi des 6 nations. Les Irlandais qui ont repris un peu de marge. Décidément, ce match est magnifique, hein, Pierre Ami, jusqu'à présent, avec un nouvel essai.
Ah, on se régale, et puis il faut dire qu'il y a des très grands joueurs sur la pelouse. C'est le cas de Josh Van Der Fleer, le 3ème ligne avec son casque rouge, qui a décalé dans le couloir des 5 mètres. James Love qui va trouver à l'intérieur le bulldozer Bundy Aki qui va aller finir en coin. C'est facile. Franchement, quand on regarde ce genre d'action, on a l'impression que tout est simple au rugby. C'est une simple question de timing. Évidemment, il y a énormément de talent côté irlandais. Ça fait 17 à 10 en faveur du 15 du trèfle. L'Italie qui n'a pas à rougir, qui a les ballons et qui malheureusement s'est fait punir, un peu trop d'ambition peut-être. Paolo Garbisi qui a tenté de relancer depuis ses 22 mètres et qui s'est fait intercepter par Bundy Aki. La punition est immédiate. On joue depuis 22 minutes. Ross Byrne va tenter de transformer et peut-être de faire oublier Jonathan Sexton, au moins dans son rôle de buteur. Ça va pas être évident, on est vraiment au coin, on est sur la croix des 15 mètres sur le côté gauche, c'est sur son bon pied pour le buteur irlandais, il va s'élancer dans le Stadio Olimpico, c'est bien parti et ça va passer. Ça fait 19 à 10 en faveur de l'Irlande qui n'a plus qu'un essai à marquer pour déjà assurer le bonus offensif après seulement 22 minutes.
Merci Pierre. Match
punition, une erreur punition quoi, c'est le tarif, hein, contre les Contre les Irlandais, c'est vrai que, comme disait l'autre Pierre, quand c'est bien joué, le rugby, ça paraît facile. Et là, c'est vrai que la passe aveugle de l'eau, notamment, de l'eau est un petit bijou. Donc voilà, bah, maintenant les Italiens, ils savent ce qu'ils ont à faire, c'est-à-dire continuer à prendre l'initiative, mais ne pas faire d'erreur, sinon ce sera sanction à chaque fois.
Ok, on me dit qu'il faut aller à Grenoble, il se passe des choses, Edouard ?
Ah non.
Ah non, non.
Il y a toujours 0 à 0. Il peut y avoir des choses sur cette action avec Sbahi. Oui, pas de main sur son contrôle. Il insiste côté gauche. Il va centrer. Il va y avoir un centre. Et finalement, derrière, Bamba n'arrive pas à récupérer le ballon. Et la défense havraise peut dégager. Il aurait pu y avoir quelque chose sur ce centre. Ça n'est fallu vraiment d'une tignasse d'un défenseur normand pour juste dévier la balle pour que Bamba ne puisse pas s'en saisir derrière, parce que dans ce cas-là, eh bien, il était vraiment pas très loin de la ligne et ça aurait pu faire mouche pour les Grenoblois, mais donc toujours 0 à 0. Il y a un petit peu plus de rythme sur cette fin de première mi-temps. On a eu un gros temps fort normand avec trois grosses actions, avec deux corners consécutifs qui au final n'ont pas trop dérangé Brice Maubleu, lequel Maubleu a eu tout à l'heure cette action, cet arrêt du pied tel un défenseur qui taclait Yann Kitala qui était juste devant lui pour empêcher l'attaque normand de mettre le ballon au fond des filets sur un excellent centre de son attaquant Samuel Grancy. On en reste à 0 à 0 à 2 minutes de la fin de cette première période.
Très bien, et c'est la mi-temps à Jean Boin qui vient d'être sifflé. Pierre Thévenet, on a quelques petits soucis techniques. Pierre, on t'a retrouvé ? Oui, ça y est, il est là.
Ouais, vous m'entendez bien ? Oui, ouais, c'est la mi-temps. C'est la mi-temps à Jean Boin et c'est Joris Segond qui vient de réduire l'écart pour Paris. 14-10 à la mi-temps pour Montpellier. Les Parisiens qui ont passé 10 minutes dans les 22 mètres montpelliérains. Ils s'en sortent finalement qu'avec 3 points. Mais en tout cas, voilà, ils sont bien revenus sur le dernier quart d'heure de cette première mi-temps. 14-10 pour Montpellier à la mi-temps ici à Jean Boin.
Merci Pierre, c'est vrai que quand tu te prends deux essais d'entrée qu'il faut cavaler derrière le score, c'est pas la meilleure solution pour espérer remporter un match de rugby. Hein,
non, c'est sûr que c'était pas le début qu'avait planifié sans doute Gonzalo Quesada, mais bon voilà, ils sont revenus dans le match, ils finissent à 4 points, ce qui est finalement un moindre mal hein, après le début de match qu'on avait vu. Et maintenant, il va falloir qu'ils construisent leur victoire en seconde mi-temps. Mais attention quand même, il y a eu des largesses en première mi-temps, notamment en défense. On a vu des percées montpelliéraines répétées. Donc voilà, le Stade français a remis un peu la main sur le match. Mais les champions de France sont à l'affût.
Exactement, les champions de France qui rêvent de décrocher un succès à l'extérieur et qui sont pour l'instant largués dans la chasse à la qualification pour le top 6 dans ce top 14. Italie, Irlande, le tournoi des 6 nations et ce match de toute beauté avec déjà 4 essais inscrits en 24 minutes, Pierre Amiche. Hein.
Et oui, on joue depuis 25 minutes et coup de tonnerre sur le 6 nations. James Love est humain. Et oui, il vient de louper quelque chose. Une passe en retrait de son demi de mêlée. C'est lui qui va prendre en charge le jeu au pied. On sait qu'il a un pied gauche énorme. Et il a fait un en avant, mêlé à 5 pour les Italiens à suivre, qui n'a rien donné. Et malheureusement pour les Italiens, les Irlandais ont su se dégager de nouveau par James Love. On le rappelle, hein, c'est un des cas, des nombreux cas, en tout cas des cas qui se développent, de joueurs irlandais qui évoluent pour le 15 du trèfle, mais qui ne sont pas nés en Irlande. James Love, il est néo-zélandais. Il avait longtemps joué au pays, et puis ça fait maintenant 4 ans qu'il est arrivé en Irlande. Et il peut être sélectionné, tout comme James Gibson Park, qui est l'un des grands absents côté irlandais, le demi de mêlée, tout comme Mac Hansen qui est australien, tout comme Bundiaki qui est néo-zélandais. Et oui, on n'est pas les seuls en France à naturaliser les meilleurs joueurs possibles. Pour l'instant, on joue depuis 26 minutes 19 à 10 en faveur de l'Irlande. Mêlée à suivre pour l'Italie dans leurs 40 mètres. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas attaquer. Attention, les Italiens qui pour l'instant ont relancé tous les ballons, y compris depuis leur 22 jusqu'à cette punition il y a maintenant 6 grosses minutes. Varnet qui va pouvoir introduire et peut-être tenter de lancer le jeu sur le côté gauche. Nous sommes donc à 40 mètres de l'en-but irlandais. Mêlé à suivre pour l'Italie qui est toujours menée 19 à 10. Il ne manque plus qu'un essai pour le bonus offensif irlandais.
Ok, et eh ben peut-être tout à l'heure. Edouard,
Oui, on est dans le temps additionnel. Ça va. C'est un petit peu plus vivant sur cette fin de mi-temps, mais j'ai toujours pas de but à me mettre sous la dent et sur mon petit cahier. Et on est dans le temps additionnel. Un arrêt de jeu suite à une faute à vrai sur Franck Bangbok, mais celui-ci, le Grenoblois, va pouvoir se relever. Ça va être la dernière action pour Jordi Gaspard. On est dans le camp normand, mais les défenseurs du HAC vont pouvoir dégager. C'est terminé donc. 0-0, une première période où ça a plus ronronné que vraiment marché au niveau des actions. On notera simplement que la plus grosse action, le plus gros arrêt, il est pour Brice Maubleu sur une action de Yann Kitala, c'est sur un centre de Samuel Grandcir, mais au final c'est le gardien et capitaine grenoblois qui a sauvé la mise, et donc du coup on en est à 0-0 entre le premier et le cinquième de la Ligue 2.
Ça va venir, Edouard, ça va, je suis sûr que ça va venir d'ici 45 minutes.
Allez,
il faut s'accrocher.
Allez, j'y crois. Merci.
Il faut se mouiller un peu la nuque et tu vas voir, ça va finir par le faire. À tout à l'heure.
À la deuxième
mi-temps de ce match entre Grenoble et Le Havre, pour l'instant 0-0. C'est pas le cas entre l'Italie et l'Irlande. Ça fait feu de tout bois au stade olympique de Rome, où pour l'instant l'Italie est menée, mais elle a offert une belle résistance à l'Irlande.
C'est vrai, Christophe, mais elle commence un peu à tirer la langue, cette équipe italienne, à moins que Pierre Bruno ou Eduardo Panovani, les très talentueux ailiers de cette formation italienne, inverse la donne. Mais pour l'instant, eh bien, les Italiens se procurent des occasions, en tout cas des situations, mais c'est trop difficile côté italien pour l'instant. Physiquement, ils sont dominés dans les derniers impacts, ce qui permettrait peut-être d'aller inscrire un deuxième essai pour cette équipe italienne. Les Irlandais qui ont peut-être bien envie de lever un peu le pied. On commence enfin à taper le ping-pong rugby que Pierre Rabadan adore, j'en suis sûr, et qu'on peut voir pour l'instant avec James Love. Le petit coup de pied par-dessus, il va aller défier Pierre Bruno dans les 40 derniers mètres, et l'ailier italien va pouvoir se relever et relancer la machine avec quelques mètres de gagné grâce au soutien notamment de son capitaine Michele Lamaro. On est à 50 mètres de l'embut irlandais et pourtant Brex va continuer à avancer. Les Italiens qui multiplient les temps de jeu et c'est trop difficile une nouvelle fois. On a un peu trop joué côté italien et attention à la sanction avec ce petit coup de pied par-dessus irlandais. L'arbitre va revenir à une pénalité en faveur de l'équipe d'Irlande située à 40 mètres face au poteau. L'Irlande qui commence petit à petit à mettre la main et sur le ballon et dans le camp italien. Ça devient difficile pour les Italiens. Pierre, je ne sais pas si c'est un coup de pompe passager ou si, ça y est, l'Irlande a enfin mis la marche en avant. Quoi qu'il arrive, ça devient plus compliqué pour l'équipe d'Italie qui est toujours menée 19-10.
Ah, ça sera toujours sans doute compliqué pour eux dans ce match où l'Irlande, on peut le dire, est sans doute intrinsèquement meilleure. Mais après, ils sont quand même dangereux. Ils tentent des choses, ils prennent des initiatives. Et quasiment plus d'ailleurs que les Irlandais sur la première demi-heure, même s'ils sont beaucoup moins efficaces. Et on a vu la facilité déconcertante que peuvent avoir les Irlandais à exploiter les erreurs italiennes. Mais bon, pour l'instant, ils sont encore dans le match quand même s'ils ont déjà pris 3 essais.
9 points d'écart donc en faveur de l'Irlande. Merci Pierre Amiche. Les deux Pierres, je vais vous laisser avec Florent Moussy dans un instant. Vous êtes là, vous êtes bien pour la suite de ce match, de ces matchs. On rappelle que le Stade français est mené sur sa pelouse 14-10 par Montpellier. Pierre, on se retrouve demain au Stade de France. Un petit match sympa. France-Écosse à partir de 16h et dès 15h pour l'Intégral Sport en direct du Stade de France dans un instant. Florent Moussy et la suite de l'Intégral Sport. Bon après-midi, ciao.
RMC Intégral Sport.